Vous savez que dans cette période, entre Pessah et Shavuot, on a l'habitude de lire le Pirkei Avot. Chaque semaine, un pérek, un chapitre dans les synagogues. Donc, j'ai choisi un passage. C'est marqué dans Pirkei Avot, au pérek Bet, Mishnah Yud Bet. Amar l'Em Rabbi Yochanan ben Zakkai, les Talmidav. Il a dit Rabbi Yochanan ben Zakkai à ses élèves, Tseu Ur'u, sortez et voyez, Ezo'i derech yeshara sheidavek ba Adam. Quel doit être le chemin droit qu'un homme, dans lequel un homme doit coller? Bon. Alors, évidemment, il n'aura pas demandé d'aller visiter New York et Katmandou pour essayer de voir c'est quoi le chemin droit. D'accord? Il leur a demandé de réfléchir dans leur tête et de savoir, à leur avis, quel était le chemin droit. Alors, vous savez, quand on parle d'un derer, on a déjà expliqué plusieurs fois que le mot derer, il veut dire chemin, mais qu'un chemin, ça n'existe pas. Un chemin, c'est une trajectoire. Maintenant, la rue, elle existe, l'autoroute existe, le nord, le sud existe. Mais à l'intérieur de tout ce décor, on peut fabriquer une trajectoire. Alors, un derer, c'est quoi? C'est une manière de se déplacer dans le monde. Yeshara, qui soit droite. Il leur a demandé, essayez de trouver le chemin qui est droit pour se déplacer dans le monde. Mais on ne peut pas fixer un chemin, ça n'existe pas un chemin. Quand vous fixez une trajectoire, vous dites, bon alors, tu veux aller là-bas, alors, je t'explique, bon, pour aller à Porte de la Chapelle, donc tu prends ça, tu prends ça, tu prends ça. Mais le chemin lui-même n'existe pas. C'est comme l'équateur. Quelqu'un, il paye 10 000 francs pour aller à l'équateur. Il arrive, il dit, bon alors, l'équateur, vous y êtes? Oui, mais c'est quoi? C'est rien, c'est une ligne virtuelle qui vous êtes juste en dessous de... Quoi, 10 heures de voyage? C'est virtuel. Un chemin, c'est virtuel. C'est quoi le chemin droit dans lequel un homme doit coller? En plus, normalement, on ne colle pas avec un chemin. Normalement, ça ne veut rien dire coller avec un chemin. On marche dans un chemin, on se déplace dans un chemin, on suit un chemin. Mais c'est quoi, shi'idavek ba'adam? Un homme, il doit coller dans un chemin. C'est quoi, coller? Il y a une expression aussi comme ça, c'est marqué... Alken yazov ish etaviv etimo, c'est pourquoi un homme quittera son père et sa mère, c'est-à-dire qu'il faut couper le cordon ombilical, vedavak beishto, et il collera avec sa femme, veiyu le basar echad, ils formeront une seule chair. Là-bas aussi c'est marqué davak, et ça veut dire quoi coller avec sa femme, c'est-à-dire quoi coller? Ça veut dire on est à la colle, ça veut dire quoi coller? Ça veut dire quoi coller? Être collé comme ça? Quelqu'un il est collé? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la femme elle a un mode de pensée, le mari il a un mode de pensée, et ils essayent de faire coller leur mode de pensée. Donc c'est exactement pareil. Toi, tu as un projet dans la tête, tu as une vision des choses, tu as un derer. C'est quoi un derer? Yeshlecha derer. Un derer. On dit la Torah, c'est le derer. La Torah, c'est le chemin. Mais ce chemin-là, il n'est pas tracé. C'est que toi, pour te déplacer dans le monde, pour te déplacer dans la vie, tu as des principes, tu as une façon de voir, tu as une façon de comprendre les choses. Qui est ton derer? Maintenant, toi, tu dois coller à ce derer. Maintenant, comment on va faire pour que ce derer soit droit? Alors, c'est un mur, tu peux le mettre droit. Une barre de fer, tu peux la rendre droite. Mais un chemin, comment tu le rends droit? Il est virtuel. C'est une trajectoire que tu as dans ton esprit. C'est un projet de vie que tu as devant toi. Comment tu vas faire pour le rendre droit? Ah, ils ont dit, chacun il a proposé quelque chose. Rabbi Eliezer Omer, Ain Tova. Rabbi Eliezer, il a proposé quoi? Ain Tova. C'est quoi Ain Tova? L'œil bon. C'est pas le contraire de Ain Hara. D'accord? Pas du tout. Peut-être à l'occasion, on fera un cours sur ça, histoire de jeter un peu un coup d'œil, oui, sur le sujet. Mais c'est quoi Ain Tova? Ain Tova, c'est un œil qui est bon. C'est quoi un œil bon? Alors, je vous ai déjà expliqué plusieurs fois que l'œil n'est pas un outil qui sert à voir. C'est une grave erreur. Les gens utilisent leurs yeux pour voir. Ça n'a rien à voir. L'œil, c'est un outil qui sert à adhérer à quelque chose. Quand je regarde quelque chose, ça veut dire que j'adhère. Maintenant, puisque un des chemins d'accès entre la réalité et le silence, entre la réalité et Maneshama, c'est l'œil. D'accord? Donc quand je regarde quelque chose, ça veut dire que j'adhère. Par exemple, quand on dit, écoutez, au vu de votre argumentaire, comment au vu? Tu l'as pas vu mon argumentaire. Au regard de cet esprit, comment l'esprit d'un regard? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'œil physique, il nous intéresse pas. L'œil intellectuel, c'est quoi? C'est le fait de regarder quelque chose. Quand je regarde quelque chose, ça veut dire que j'adhère avec la chose. Et la chose adhère avec moi. Alors, je vous ai déjà expliqué qu'au niveau moléculaire, c'est très facile à comprendre. Parce que quand on dit, tu vois, le mur, il est là, et moi, je suis là. Alors, moi, je crois que je suis l'un du mur. Alors, on dit, c'est faux. Puisque au niveau moléculaire, les molécules du mur, les molécules de l'air et les molécules de mon corps, elles sont liées. D'accord? On est liés. La preuve, si je mets un tuyau entre moi et le mur, et que l'air qui est dans le tuyau, je le comprime, je peux pousser le mur. Pourtant, il n'y a rien. Il n'y a rien entre nous. Je dis, c'est faux. On est liés. Donc si on fait un avec la chose, si on fait un avec les éléments, alors peut-être qu'avec mes yeux, aussi quand je regarde, peut-être je touche. Avec mes yeux, peut-être je fais comme ça, oui. Si j'appuie avec mes yeux, ça on peut demander facilement aux jeunes filles, est-ce que vous savez ce que ça veut dire un regard appuyé? C'est très bizarre, il y a des regards, tu les sens, qu'ils appuient. Mais fort. Mais arrête d'appuyer comme ça, je vais tomber. D'accord. Ça s'appelle un regard appuyé. Alors, il n'y a aucun physicien au monde qui peut expliquer pourquoi est-ce que quelqu'un sent un regard dans son dos. Je sens un regard. Mais il y a quelqu'un qui me regarde là, je ne sais pas. Même quand tu es dans un stade de foot avec 80 000 personnes, tu sais qu'il y en a un qui te regarde, mais tu ne sais pas lequel. Je fais comme ça jusqu'à ce que tu croises son regard. Et au moment où tu croises le regard, tu te sens. C'est pareil, mais dans l'enfant, il sent le regard de son père. Et quand tu voles, tu sens le regard du type qui te regarde. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le regard, c'est une réalité de conscience. Donc ça veut dire quoi, Ein Tova? Ein Tova, c'est quoi? C'est une largesse de l'œil. Maintenant, c'est sûr que ce n'est pas lié au regard. Maintenant, l'autre, il a des grands yeux. Ein Tova. Oui? Non, Ein Tova, c'est une largesse d'esprit qui est représentée par la largeur de l'œil. On appelle ça une ouverture du regard. Il y a des gens qui ont des grands yeux, c'est-à-dire qui ont une grande vision des choses. Les gens, ils ont une petite vision des choses. On appelle ça des mesquines. C'est une maladie, ça se soigne. Mesquines. Petit crayon, petite voiture. Petit costume, toujours petit costume. Petite copine, petite télévision, petite. Juste entre la bibliothèque et les toilettes. Juste, petite. Tout petit, lui aussi petit, petite vip, petite bord, petit. Je ne l'ai pas dit. Bon, alors, mesquine, d'accord, ça s'appelle Ayn Sara. Les gens, ils ont les yeux petits. Mais les gens qui ont les yeux petits, ils ont une vie petite. Mais depuis quand les yeux ont une incidence sur la taille de la vie? Parce qu'on appelle ça un horizon. As-tu un horizon? Alors, il y a des gens, ils ont un horizon large. Ils voient comme ça. Ils font du business, un milliard. Ouais. Ils ont un projet, alors 180 000 personnes. Les grands, les gens petits. Les gens, si Dieu veut, je vais acheter un pavillon à Pantin, Blinéder. Avec une véranda. Derrière. Tu peux faire mieux, non? C'est bien. Blinéder, je touche du bois. D'accord. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ein Tova, c'est une largesse d'esprit, c'est une façon de voir l'intériorité des choses, c'est une façon de se déplacer dans le monde avec des grands projets. Il dit ça, le chemin droit qu'un homme doit choisir dans la vie, c'est Ein Tova. Deuxième, il dit non, Rabbi Yehoshua Omer, Chaver Tov, un bon ami. C'est quoi Chaver? Chaver, c'est ami. Mais Chaver, ça vient de Chibour en hébreu. Chibour, c'est quoi? C'est lié. Vous avez remarqué une chose, la vraie amitié n'est pas soumise à la distance. Quand vous êtes ami avec quelqu'un, par exemple, vous êtes vraiment ami. Ben vous le renvoyez 10 ans après, au bout de 30 minutes, c'est comme si vous ne l'avez jamais quitté. Vous savez pourquoi? Parce que vous ne l'avez pas quitté. La règle est simple. Pour ceux qui prennent des notes, ce n'est pas la distance qui fait la distance. Ce n'est pas la distance qui fait la distance. Il y a des gens, ils sont l'un à côté de l'autre depuis 40 ans. Et ils sont loin. Très loin. Tu sais, il faut que je te quitte. Alors l'autre, elle dit, je ne savais même pas que tu étais là. D'accord. Donc la distance n'a rien à voir avec la géographie. Pourquoi? Parce que l'amitié, c'est une relation qu'on entretient dans la neshama, dans l'âme. Il y a un feeling. Après ce feeling, il est conforté par une communication, qui est conforté par une confiance. Et maintenant, les trois, ils passent. C'est fini maintenant. C'est indestructible puisque ce n'est pas lié à la matière, ce n'est pas temporel. Ah, si c'est lié à des intérêts, tu me donnes, je te donne le troc. Tu me donnes de la tendresse, je te donne mon corps. Il y a des annonces comme ça. Des annonces dans... Les journaux spécialisés sur les voitures. Donc si c'est un troc, alors évidemment que le jour où l'objet du troc n'est plus intéressant, l'échange s'arrête. Parce qu'une amitié intéressée a une limite. Pourquoi est-ce qu'elle a une limite? Parce qu'elle a un début. Et tout ce qui a un début a une fin. Une amitié désintéressée n'a pas de limite. Parce qu'elle n'a pas de début, elle n'a pas de fin. Tout ce qui est lié à la matière est limité. Tout ce qui n'est pas lié à la matière est illimité. Alors maintenant, comment est-ce que toi tu vas créer quelque chose d'illimité avec quelqu'un? Parce que tout le monde en rêve, ils appellent ça l'amour dans la rue. Comment est-ce qu'on fait pour créer quelque chose d'illimité avec l'autre? Eh bien, il faut soi-même dépasser la limite. Il faut que l'autre aussi dépasse la limite et qu'il y ait une conjonction de nos deux désirs de fabriquer quelque chose d'illimité en même temps. C'est pas quand toi tu as fini d'espérer, l'autre il commence à y croire. Ça fait des croisements. Ouais. Non, il faut le faire en même temps. Chaver, c'est ça. Chaver, c'est ribour. Un ami, c'est quelqu'un que tu sais que tu peux compter dessus. C'est-à-dire quoi, compter dessus? T'as pas besoin qu'il soit là. T'as pas besoin qu'il te soutienne. Mais tu sais que tu peux compter. Tu sais. Ah, tu me dis, alors, c'est intéressé si tu peux compter. Mais non. Mais non. Parce que pouvoir compter, ça veut dire que tu n'es pas seul au monde. Ça veut dire que tu existes. Ça veut dire que tu as une part. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui sait que tu existes. Ça suffit. Maintenant, l'autre, quand il te montre une fois par mois que tu existes, ça te suffit. Tu n'as pas besoin qu'il soit là pour te sortir du lit. Chaver Tov. Donc maintenant, quand toi, tu veux fabriquer une trajectoire, c'est-à-dire tu veux te déplacer dans le monde de la manière la plus vraie possible, il faut que tu aies un repère de trajectoire. Alors lui, il dit, Rabbi Yehoshua, le repère de trajectoire, c'est quoi? C'est un ami. C'est quelqu'un qui te dit, bon là, c'est bien, continue. Il dit, non, là, ça ne va pas, là. Là, tu te laisses aller complètement, là, tu dérives. Oh, tu m'embêtes? Oh, bah, je te le dis, en toute amitié. Donc, tu reviens. Alors, des fois, il te met une claque, des fois, il te met une caresse, mais il te maintient sur la ligne droite. Rabbi aussi Omer, Shachen Tov, un bon voisin. Vous allez me dire, un voisin, un ami, c'est pareil. Le voisin, des fois, ça peut être très dangereux. La voisine, encore plus. Oui. Dans la race des reptiles, ils ont mis la voisine en numéro 2. Après le serpent à sonnette. Et souvent que ça commence par un coup de sonnette, d'ailleurs. Et elle ouvre la porte et tu vois un serpent qui ondule. C'est comme ça. Nahash. Donc, ici, c'est marqué Shachen Tov. C'est marqué dans la Gemara Oy li racha, oy li shreno. Malheur au rachat, malheur à son voisin. Le rachat, c'est un tordu. C'est un tordu. Il y a des tordus dans le monde, on ne peut rien y faire. Vous comprenez ça? En botanique, ça s'appelle les conifères. C'est des conifères, il n'y en a rien à faire, c'est comme ça, c'est des conifères. D'accord? Donc il faut des rechaïm, il y en a. Maintenant, chacun a libre arbitre, il peut en être ou il ne peut ne pas en être, mais il y en a. Maintenant, la Gemara, elle dit Oy les rachats, oy les shreno. Malheur au rachat, malheur à son voisin. Il dit attends, mais j'ai rien fait moi. C'est comme ça. Qu'est-ce que tu fais à côté de lui? C'est pas de ma faute. Des fois, le voisin, c'est très bien. C'est très, très bien. Toi, tu es jeté à 30 km de Khalal Khalé. Tu commences à revenir à la teshuva. Tu as écouté un cours. Là, tu t'es réveillé. Il y a un type qui t'a mis un MP3 dans les oreilles. Et tu dis, oh, j'aimerais bien faire Shabbat. Mais tu sais pas ce que ça veut dire, vu que tes origines bretonnes t'éloignent de la Torah. Oui. Bien que tu es marocain, mais bon, tu as tout quitté. Alors, d'un seul coup, il y a un monsieur religieux, ingénieur en agronomie, qui est muté dans ton immeuble. Il est là pour une mission de 7 mois. D'accord. Il est muté deux étages au-dessus de toi. Alors toi, tu le rencontres dans l'escalier. Vraiment, il a une tête. Oui, il est mormon ou il est juif. Un des deux. Hein, d'accord. Tu dis bonjour, monsieur. Il te dit shalom. Ata yodi. Et il commence à t'aider. Il t'explique comment ça marche la loi. Il t'invite le Shabbat. Il te fait découvrir la Torah. Il te fait découvrir. Bah, au Hachem, il reste 2 ans. Au bout de 2 ans, il s'en va. Il est muté ailleurs. Pourquoi? Parce qu'il a une autre mission. Toi, tu sais pas comment il est arrivé chez toi. Je lui dis 30 km de Khalal Khalif. Vous connaissez la Suède. D'accord. Très, très bled. Pourquoi il est arrivé chez toi, tu sais pas? Parce que tu avais besoin de lui maintenant. Pendant 2 ans, tu avais besoin de lui. Maintenant, il y a quelqu'un d'autre qui a besoin de lui. Ça s'appelle Shachen Tov. Des fois, c'est Shachen Ra, un mauvais voisin. Tu dis, en fin de compte, tous mes malheurs, ils ont commencé quand? Bah, quand il est venu s'installer. Tu aurais dû te méfier quand même. Avec un nom pareil, Mzroub, c'est pas un nom commun. Monsieur et Madame Mzroub. Tu n'aurais même pas prononcé. Après, il vient chez toi et tu dis... Viens voir le foot à la maison. Après, il te dit, détends-toi, je te sens nerveux. Est-ce que tu veux que je te donne quelque chose pour t'aider à te détendre? Tu comprends pas ce qu'il veut? Tu vois, tu croyais qu'il voulait créer un lien. En vérité, il voulait créer un joint. D'accord. Tu dis, qu'est-ce que c'est? Tu dis, bon, c'est... j'ai travaillé pendant des années dans la moquette, donc j'ai gardé quelques échantillons. Bon, tu dis, bon, c'est rien, hein, ça coûte rien. Tu essayes, tu dis, mince, il y a 4 téléviseurs. Combien ils gagnent pour se payer tout ça? Ouais. Donc, c'est un mauvais voisin. Au début, il voulait juste donner quelques expériences. Et puis après, tu vois qu'il abuse de ta dépendance. C'est un mauvais voisin. Tu ne peux pas savoir. Un bon voisin, c'est quoi? C'est pareil. C'est un repère de trajectoire. Oh Hachem, tu as eu le bon voisin. Regardez toujours les gens qui vous entourent. Ça vous permet d'apprendre à vous connaître. C'est connu ça. Quand vous voyez un tas de mouches en train de voler au-dessus de quelque chose, vous pouvez facilement imaginer qu'est-ce qu'il y a en dessous. De la viande. Qu'est-ce que vous avez pensé vous? Donc c'est pareil. Si vous marchez comme ça, sympathique, à joindre les pains, vous avez oublié de vous habiller, et qu'il y a toute une masse de mouches. Enfin, c'est des garçons a priori, mais... Quand vous voyez le QI, c'est proche de la mouche. Ouais, ils sont... Vous dites, mais pourquoi vous me regardez comme ça? Alors, il y en a un qui lui dit, t'as oublié de t'habiller. Merci. On attire les mouches, il faut réfléchir. Tu regardes ce qui est autour de toi, tu regardes le shochen, tu regardes le voisin, tu regardes le voisinage, tu regardes l'entourage, ça te définit. Une fois que quelqu'un m'a dit, il m'a dit, Marav, je comprends pas, je suis entouré d'idiots. Moi, je dis rien, vous savez, moi. Je dis, mais il faut que tu réfléchisses, parce que les aimants attirent les aiguilles. Je sais pas, qu'est-ce qui peut attirer les imbéciles, à ton avis? C'est pas évident, hein. Pourtant, c'est une loi physique, tout le monde a appris à l'école. Ceux qui se ressemblent, je ne l'ai pas dit, c'est vous qui avez dit. Donc chacun il doit se demander pourquoi est-ce qu'il attire plutôt ce genre de personnes plutôt que d'autres. Et s'il va me dire, eh ben, je fais ce que je veux, ben voilà, c'est les gens que j'aime bien, parce que c'est vrai qu'ils sont bêtes, ils sont idiots, ils sont lourds, et ils parlent que de lourdeur et de bêtises, mais ils sont gentils. Bon alors, deviens éleveur. Tu vas être entouré de gens gentils, qui ne disent pas de mal de personne, qui ont un regard comme ça un peu veau, mais... très sérieux. Pourquoi? C'est très sérieux. Le bonheur de l'éleveur qui se lève le matin et qui rentre dans l'étable et qui voit toute une série de personnes qui ont besoin de lui. Il les regarde comme ça, il dit alors. Rabbi aussi Omer, non, ça on l'a déjà fait, Rabbi Shimon Omer, Aroué et Anolad. Rabbi Shimon, il a dit, celui qui voit l'avenir. C'est quoi voir l'avenir? L'avenir, on ne peut pas le voir, il n'est pas là. Pour ça, j'ai dû vous l'expliquer à peu près 107 000 fois. Il y en a qui s'en rappellent ou non? Aroué ta nolad. Le nolad, c'est ce qui va arriver, c'est le futur. Maintenant, le futur, on peut l'imaginer, on peut spéculer mathématiquement, on peut anticiper, mais on ne peut pas le voir. Comment quelqu'un il peut voir le futur? C'est très simple. Vous allez chez un grainetier. Vous dites, je voudrais un jardin, un potager. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Des poireaux, des tomates, des carottes? Bougez pas. Il va dans l'arrière-boutique, il revient avec un petit sachet. Il dit, voilà votre potager. Il vous amène, alors, tu ouvres, tu vois dedans, des petits trucs ronds, ça s'appelle des graines. C'est un grainetier. Excusez-moi, je vous ai demandé un potager. Il dit, ben voilà, il est là ton potager. Il dit, regarde, là c'est les tomates, là c'est les poireaux, là. Comment ça se fait que lui, il voit des tomates et voit, toi, tu vois des petites boules rondes? Il dit, ben oui, parce que là, le jardin est en potentiel. Mais quand tu vas le mettre en terre, il va devenir des tomates. Il est lourd, il nous fait venir exprès pour ça. Je vous explique. Ton présent, c'est un tas de graines. Il va devenir des arbres. Si tu es grenetier, en analysant ton présent, tu connais ton futur. Et si vous allez me dire, ouais, mais il faut être vachement psychologue, et puis vachement objectif, et va... Mais non. Déjà, ça fait deux fois que tu dis vachement. Regarde la tendance. En bataille, c'est pas shoot. Regarde, prends la preuve logique. Quand quelqu'un, il regarde son passé... Il comprend son présent. Quand il se demande, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Alors qu'est-ce qu'il fait? Il réfléchit. Il regarde son passé. Il dit, tu sais, je crois que dans le passé, j'ai planté les graines de mon présent. Je ne récolte que ce que j'ai semé. Donc si en analysant le passé, tu peux comprendre ton présent. Donc en analysant ton présent, tu peux connaître ton futur. Puisque ton présent, c'est le passé de ton futur. Moralité, il suffit de mettre son présent au passé pour connaître son futur. Facile. Oui ou non? Mettre son présent au passé. Tu fais aujourd'hui comme si c'était hier. Non, tu fais aujourd'hui comme si c'était demain. D'accord? Donc quand tu regardes aujourd'hui, tu es au passé. Donc ça va te donner ton avenir. Regarde, analyse ton présent. Regarde celui-là. Ça fait 3 ans que tu es avec lui. Il t'insulte, il te respecte pas, il te rappelle pas au téléphone. Il veut toujours pas te présenter à ses parents. Ça, c'est ton présent. Tu crois que ton avenir, ça va être quoi? À ton avis, il va devenir un mutant. Il va revenir sérieux, comme ça il va dire, chérie, je ne te touche plus, on ne fait plus rien, on va se marier demain, il faut que tu vois ma mère, mon père, tu vas à l'Aïshiva, je vais à l'Aïshiva. Tu connais ton présent, Lala, tu connais ton futur. Je suis content. Pareil pour vous, ne croyez pas, hein, genre... Ton présent, il est là. Ouais, c'est pareil. Tu embrouilles, tu magouilles, tu mens, tu triches, tu voles, tu trucs. Après, tu dis, ils viennent la brigade financière. C'est pour un sondage? Non. C'est pour vous faire essayer des bracelets, la nouvelle collection. Hein? Une fois, il y en a, il m'a dit, écoutez, Rav, je viens de rentrer dans la pub. Toutes les deux semaines, il y a la brigade. C'est normal, c'est des vieux copains de régiment. Ils se font des visites. Tu embrouilles. Tu embrouilles dans le présent, tu connais le futur. Ah, tu dis, non, mais moi, je ne vais pas me faire attraper, moi. Ils sont tous attrapés, moi, je ne veux pas... C'est comme l'outil, ils ne payent pas les PV jusqu'à l'armistice. Tous. Mais rien que la veille, il reçoit la lettre. 143 000 euros. Du coup, il fait ça à l'IA. Il s'est senti comme ça d'un seul coup, une envie de... J'ai tout de suite senti que j'étais appelé vers Israël. C'est bizarre, hein? Ce réflexe de Aliyah, des fois que les gens, ils ont de manière spontanée. Une fois, il y en a un, il est venu, il m'a dit, comme ça, dans un truc, il m'a dit, Rav Chetrit, on a le droit de voler une banque? Genre de faire un gros prêt pour... Et après, je dis, pourquoi tu veux faire ta Aliyah? Il m'a dit, comment vous avez deviné? Hachem Ishmor Rabotai. Que ceux qui veulent partir partent les mains propres, mais que ceux qui veulent rester ne se fassent pas assassiner à cause des gens qui sont partis. Parce qu'ils seront à la dèche là-bas, parce que l'argent pourri, de toute façon, ils ne profitent pas. Et nous, on va se faire insulter parce qu'on n'a pas fait ces dommages. Donc détendez-vous. Surtout aujourd'hui, c'est quand même un jour. Bon. Si c'est comme ça, il est venu Rabbi Eliezer Ben Arach, et il a dit Lev Tov. Lev Tov, ça veut dire quoi? Le cœur bon. D'abord, ça veut dire quoi bon? Quand c'est marqué Tov dans la Torah, c'est pas bon, ça veut dire bon à manger. Tov, ça veut dire Shalem. À chaque fois qu'on voit écrit Tov dans la Torah, ça veut dire quelque chose de complet. Par exemple, quand on dit Mazal Tov, c'est pourquoi? Parce que quand le Mazal de l'homme, il a rencontré le Mazal de la femme, avec toutes les péripéties qu'il a fallu pour réussir à faire une chose pareille, alors que le Mazal est complet, maintenant, parce que les deux morceaux se sont rencontrés, alors on dit Mazal Tov. Quand Hachem est arrivé à la fin de la création et il a créé le monde, il a dit Ve'ine Tov Me'od. Et voici que c'était très bien. Donc Tov, ça veut dire quoi? Ça veut dire complet. Maintenant, c'est quoi Lev Tov? Alors, le cœur dans la Torah, c'est pas le muscle qui sert à envoyer du sang, c'est pas l'endroit des sentiments, des sensations, pas du tout. Ça, c'est la poésie. Le cœur, c'est l'essence de l'être, l'intériorité de l'être. Chacun d'entre nous, il a à l'intérieur de lui-même une espèce de centre, de magma en fusion qui est son essence. À partir de cette essence là une partie qui a été donnée par Dieu, une partie qui a été développée et conçue par l'homme, cette essence là elle va rayonner sur tout ton vécu. Maintenant, quand on dit que le cœur est Tov, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le centre de la personne, il est complet, il est construit. Alors, dans le centre de la personne, il y a le psychique. Dans le psychique, il y a l'intellect, il y a l'émotionnel. Donc il y a l'équilibre, il y a la sérénité, il y a le regard des autres, il y a les malaises, il y a les mal-êtres, il y a le complexe. Tout ça, ça doit être construit. Par qui? Par l'homme. Maintenant, un homme, il construit son être intérieur pour qu'il soit shalem, il soit complet. Donc c'est-à-dire qu'il soit tov. Ça s'appelle lev tov. D'accord? Maintenant, Rabbi Eliezer Ben Arach, donc il a dit que la manière, on l'a demandé, quel est le chemin droit dans lequel il faut coller? Il a dit c'est le cœur entier, l'être intérieur complet. Alors Rabbi Yochanan, il a dit Roé ani et divrei Rabbi Eliezer ben Arach shebichlal devarav divrechem. Il a dit je retiens les paroles de Rabbi Eliezer ben Arach, parce que dans ces paroles il y a tout ce que vous avez dit, c'est dans ces paroles. Alors nous, on comprend pas. Lui, il a dit le cœur bon, c'est-à-dire l'être intérieur complet. En quoi ça peut inclure Roé Tanolad, celui qui voit l'avenir, Shachen Tov, le bon voisin, Chaver Tov, le bon ami, Ain Tova, la générosité d'esprit? Mais quel rapport? Alors il faut arriver à comprendre que quand on parle de quelqu'un qu'il est complet, ça veut dire qu'il est entièrement construit. Alors, essayez de comprendre une chose. Dans le monde, on est plusieurs ou on est seul? On est plusieurs. On côtoie des gens, on a des échanges, il y a des sentiments, il y a de la haine, il y a des crises, il y a des souffrances, il y a du business. On côtoie des gens, on croise des gens, on développe des gens, on est lié à des gens. Mais au fond, la personne, elle est seule. Maintenant, seule, ça ne veut pas dire seule. Comprenez ou non? Pas la folitude, ils appellent ça la folitude. Je vais devenir folle à cause de la folitude. Non. Seule, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne, au fond, elle est unique. Maintenant, de la même manière qu'on a des parents, Baruch HaShem, en chair et en os, et que Dieu les garde en bonne santé, d'accord? D'un autre côté, il faut savoir que de la même manière que tu as des parents en chair et en os, tu as aussi des parents psychologiques. C'est quoi des parents psychologiques? Le temps que tu restes avec tes parents, ça te permet de développer deux pôles à l'intérieur de toi. Un qui s'appelle la conscience et un qui s'appelle la sensibilité. Maintenant, le père psychologique, c'est la conscience. Et la mère psychologique, c'est la sensibilité. Normalement, tu restes avec tes parents le temps que tu puisses te fabriquer un père psychologique et une mère psychologique. Le jour, à 120 ans, où tes parents te quittent, entre guillemets, tu es toi-même assez construit pour avoir un père psychologique et une mère psychologique. Donc tes repères, tu les as. Maintenant, si quelqu'un, quand il perd ses parents, il est complètement perdu, on parle bien sûr après l'année de deuil, la deuxième, la troisième année, c'est-à-dire qu'il n'a plus de repères parce qu'il n'a plus son père, c'est pas normal. Parce que le temps qu'on lui a donné ses parents, c'était le temps qu'il fabrique ses repères. Donc si maintenant qu'il a plus ses parents physiques, il n'a pas non plus ses parents psychologiques, c'est très grave. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est que le reflet de ce qui est à l'extérieur, dans un miroir. Quand vous mettez quelque chose en face, il y a quelque chose en face. Mais quand vous mettez rien en face, il n'y a rien en face. Alors il y a des gens malheureusement qui fonctionnent comme des miroirs. Vous savez quelle est la différence entre un miroir et un tableau? Quand vous achetez un tableau, vous le mettez au mur, par exemple, il y a un paysage. Il y a un paysage. Vous le regardez, il y a un paysage. Vous allez à la salle de bain, vous revenez, il y a un paysage. Vous partez en vacances, vous revenez, il y a un paysage. Imagine, tu achètes un tableau, il y a un paysage. Et puis quand tu reviens de vacances, il y a un portrait. C'est le même cadre. Mais enfin, attends, mais enfin, c'est pas possible. Mais j'ai acheté un paysage, il y a un portrait. Comment c'est possible? J'ai écouté, c'est un phénomène paranormal. Je vais appeler Belmar. Comment c'est possible? Maintenant, le tien, il est encore pire. Parce que ton voisin, lui, s'il est passé du paysage au truc, mais lui, c'est encore pire. Il change tout le temps. Il change. Et quand tu te déplaces, il change. Et quand tu te rapproches, tu vois un type dedans. Il dit, mais c'est un miroir. C'est pas un portrait. C'est pas un tableau. C'est un miroir. Exactement pareil. Quand vous prenez un miroir et que vous le baladez dans la rue, vous n'avez pas remarqué que l'image qui est dessus, elle change tout le temps? C'est même fatigant à suivre. Et bien, il y a des gens qui sont miroirs. Là où ils sont, ils prennent une image. Ils changent d'image, ils changent d'image, ils changent d'image. Tu dis, mais c'est pas possible. Un portrait, il émet une certaine image qui est propre à lui. Comment ça se fait que toi, tu absorbes l'image des autres au lieu d'exprimer la tienne? Parce qu'au fond, derrière la vitre, il n'y a que de l'argent. C'est une feuille d'argent, un miroir. Et l'argent, il n'y a pas mieux pour refléter. On appelle ça le vedettariat. Pour ceux qui savent ce que c'est une vedette. Pas une machine à laver. Donc il n'y a rien dedans. Il y a juste un fond d'argent qui reflète l'extérieur. C'est-à-dire ce que toi tu as envie de trouver. On appelle ça s'identifier. Donc chacun il s'identifie à qui? À personne. C'est la nouvelle vedette, c'est personne. C'est quelqu'un qui représente des milliers de personnes au niveau d'un courant de son, de musique, de pensée. Mais quand tu lui parles, il n'y a personne. Tu ne fais jamais l'interviewer parce que... Alors, bah écoute, j'ai des projets, je suis en truc pour une tournée de... Mais, et toi-même, bah, je suis en tournée, donc je suis en préparation de... Oui, mais toi-même, ouais, j'ai un disque qui va sortir... Bon, mais toi, bah écoute, je suis en projet de... Maurice, qu'est-ce que je dois dire? Oh là là! C'est ça ton identification? Tu veux t'identifier à ça? Exactement pareil. Une personne, elle doit décider où elle est elle-même. Elle est construite, elle est entière. Et c'est son intériorité qui va non seulement qui va exister à l'extérieur parce qu'elle va la représenter, mais en plus de ça, elle va même imprimer à l'extérieur, on appelle ça en français la personnalité, ou alors elle est personne et elle ne va pas arrêter d'absorber la personnalité des autres. S'ils en ont, imagine qu'ils se créent des clubs de non-personnalité. Ça, il y a les VIP, d'accord? Il y a les VIP, d'accord? Et il y a des... rien à voir. Ça s'appelle des RAV. RAV, oui, allez-y, entrez vous. Vous avez votre carte, bien sûr. RAV, rien à voir. Et toi? Rien à voir. Bonjour. T'as rien à voir? On est un club de rien à voir. Qu'est-ce que vous faites? Bon, on essaie de se faire voir, quoi. Là où on peut, hein. Parce qu'il n'y a rien à voir. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne, elle doit décider une fois pour toutes. Est-ce qu'elle va être assez construite pour être elle-même? Et si elle est elle-même, optionnellement, elle peut aussi irradier l'extérieur, mais ce n'est pas obligatoire, du moment qu'elle est elle-même. Ou alors elle va être personne, parce qu'elle n'est pas complète, parce qu'elle n'est pas entière, et à ce moment-là, elle va absorber comme une éponge toute l'extériorité, les agressions, les remises en cause, les souffrances, la douleur, le malheur, le bonheur. Il y a des gens, c'est des absorbeurs de bonheur. Ils viennent chez toi des éponges. Tu peux me lâcher? Non, je te prends, je te mange. Je te puise, je t'épuise. D'ailleurs, tu te sens vidé. Oh, tu m'as pris le sang. Non, je t'ai pris que le bonheur. D'accord. Des éponges, des gens dangereux. Donc ici, c'est marqué que l'Eftov, c'est que la personne, son intériorité est construite. Alors qu'est-ce que ça veut dire une intériorité construite? Alors regardez ce qui est marqué dans le Rambam. Le Rambam qui explique la Mishnah dans Pirkei Avot. Shezot imalat tikkun amidot. Ça c'est le niveau de réparation, c'est-à-dire de perfectionnement des qualités. Quand quelqu'un il a lev tov, c'est-à-dire qu'il a atteint un niveau de perfection au niveau de sa construction personnelle. Les fiches et derotav shel adam neviratan minalev. Puisque les pensées de quelqu'un proviennent de son cœur. Alors nous on comprend pas, on dit mais enfin les pensées ne viennent pas du cœur, les pensées viennent de la tête. Quand on réfléchit, on a mal à la tête ou mal au cœur? Mal à la tête. Donc ça vient de la tête. C'est quoi le cœur? Le cœur c'est le centre de la personne. Maintenant toi tu construis ton intériorité, ta façon de penser, ta façon de raisonner, ton objectivité, ta capacité de te remettre en cause, la capacité d'écoute, la capacité... Tu travailles ton intériorité. Maintenant, ce qui va sortir de ta bouche, ce qui va sortir de toi, si tu es droit, ça va être droit. Si tu es tordu, ça va être tordu. Maintenant, qu'est-ce qui est tordu? Ta bouche? Qu'est-ce qui est tordu? Ta tête? Ton essence est tordue. Tu dis, mais c'est pas de ma faute, je suis tordu. Non! Tu as une mitzvah de devenir droit. Tu as une mitzvah de te construire. Maintenant, si tu es fait à moitié... Tu produis des moitiés. Par exemple, c'est très connu, statistiquement, qu'une doigt, une main de 5 doigts produit une ombre de 5 doigts. C'est affolant de précision. Vous mettez votre main devant la lampe, d'accord, et vous voyez l'ombre, il y a 5 doigts. Tu dis, mais enfin, comment c'est possible? C'est une cause à effet abominable. C'est une main de 5 doigts qui produit une ombre de 5 doigts. Maintenant, de vous à moi, si vous voyez une ombre à 4 doigts, d'après vous, vous êtes des gens quand même profonds, à votre avis, la main, elle a combien de doigts? Hein? Elle a 4 doigts, hein? Abotaï, l'ombre, c'est la projection de ce que tu es. Tes actes, c'est la projection de ce que tu es. Donc, quand tu projettes quelque chose de complet, c'est que tu es complet. Mais quand tu projettes quelque chose qui n'est pas complet, c'est que tu n'es pas complet. Donc, vous savez, j'arrive jamais à terminer, je ne peux pas finaliser, je ne vais pas au bout de mes projets, je ne vais pas au bout de ma parole. Mais c'est l'ombre, mon frère. L'ombre, c'est la projection de ce que tu es, de l'objet. Donc toi, si tu veux projeter du complet, il faut être complet. Ça s'appelle Lev Tov. Maintenant, il dit « Derotav chez la dame et viatan minalev ». Les pensées viennent de l'homme. Donc maintenant, si tu te surprends à dire des bêtises, ça peut arriver quand même. Il y a quand même des gens qui se regardent vivre dans le monde, ouais. Donc il parle et puis il dit, enfin, c'est marrant quand j'ai dit bêtises. Il dit méchanceté, il casse. Je sais pas, je voulais lui dire quelque chose de gentil, mais il fait un lachonara pourri. C'est une catégorie très très la plus dense. Ça s'appelle lachonara Tchernobyl. C'est très très. Alors il te fait un lachonara Tchernobyl comme ça. Après tu lui dis, mais pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi? Tu m'as cassé, tu as cassé ma famille, tu as cassé mes parents, tu as cassé ma femme, tu as cassé mes enfants. Pourquoi? Il te dit, je te jure sur la tête de ta mère qu'elle meurt à l'instant. Je ne l'ai pas fait dans une mauvaise intention. Vraiment, je ne sais pas si c'est venu comme ça. Mais il faut les abattre dans la rue, ces gens-là. Le type, il dit, je t'ai tué, mais je te promets que je ne voulais pas de mal. Il y a des gens comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de maîtrise. Parce qu'ils ne se regardent pas, ils ne s'écoutent pas, ils ne se vivent pas. Il faut se vivre. Il faut se vivre, ça veut dire, il faut te regarder, il faut t'écouter. Et si tu vas me dire, mais enfin, à quoi ça ne rime à rien, je suis là, et puis après je vais me mettre là, et je vais me regarder là, est-ce que je suis celui que je suis censé être? Mais, à Botaï, il faut bien comprendre dans la vie. Ou on se donne des leçons, ou la vie nous donne des leçons. Maintenant, vous remarquez que les gens qui n'arrivent pas à se regarder eux-mêmes, ils ne supportent pas non plus quand on les regarde. Pourquoi quelqu'un, il aime pas les reproches? Je ne sais pas si c'est vrai, c'est vrai. Oui, mais moi, j'aime pas trop. Parce que, quelque part, au niveau de mon amour propre, ça me détruit. Mais réfléchis. Réfléchis. Ton amour propre, c'est toi ou c'est quelqu'un d'autre? Ben, c'est moi, parce que c'est propre à moi. Ah non, c'est pas toi. L'amour propre, c'est pas toi. Vous verrez que les trois quarts des gens qui réussissent quelque chose, c'est toujours parce qu'ils ont sacrifié leur amour propre. Tu veux réussir ton couple? Faut sacrifier l'amour propre. Tu veux aller loin dans le travail, faut t'oublier. Tu veux construire quelque chose qui te dépasse, faut enlever tes limites. Donc à chaque fois que tu t'oublies, t'es grand. À chaque fois que tu te regardes, t'es petit. Maintenant, quand tu veux savoir si c'est toi ou si c'est ton amour propre, si c'est ton intérêt ou si c'est ton objectivité, si c'est vraiment de l'amour ou si c'est parce que t'es intéressé, il suffit que tu te regardes. Maintenant, quand c'est l'autre qui t'agresse en te disant « Mais j'aurais jamais cru qu'une personne pouvait faire une chose pareille »,
ça t'énerve parce que tu dis mais j'ai été vexé. Mais si c'est toi, il n'y a personne. C'est genre toi et toi. Tu te regardes dans une glace comme ça et tu dis mais t'es pas malade de parler comme ça. T'es pas fou d'agir comme ça. T'as pas honte de mentir. T'as pas peur que la personne elle s'en rende compte. Tu te sens pas mal. Normalement, quand toi tu te parles à toi, c'est rare que tu te vexes et tu t'engueules. Non, il y a des gens qui se mettent des baffes. La prochaine fois, ma parole, je te tue. La prochaine. Hein, tu ouvres cette bouche. Normalement, ça dérange pas de se parler à soi-même. Parce que c'est la seule manière de s'en sortir. Maintenant, la personne qui est habituée à se parler à elle-même, parce qu'elle se cherche, elle veut évoluer, elle veut apprendre à se connaître, elle veut être elle-même, elle veut être entière, elle comprend que ce qu'elle dit, ça tient la route, ça tient pas la route, parce qu'elle sait d'où ça vient. Puisqu'elle connaît la source, elle connaît le résultat, elle fait le lien entre les deux, et puis elle va se remettre en cause. Mais la personne qui ne voit pas, il y a des gens comme ça, ils disent une chose, à la seconde où ils l'ont dit, je dis pourquoi tu dis ça ? Ils n'ont jamais dit. Tu te rends compte le niveau d'anesthésie qu'ils ont atteint ? Ils ont fini de parler, ça veut dire la bouche, tu vois encore le souffle qui sort de la bouche, je te dis, c'est pas moi. Je n'ai jamais dit ça, je te jure. Mais attends, le pire, t'as un magnétophone, t'as enregistré, il te dit c'est un enregistrement truqué. Je suis l'œuvre d'un complot. Détends-toi, Maurice, il y a toi et moi, tout va très bien. Ça va aller, reprends un cachet, je vais t'expliquer, d'accord ? Comment la personne, elle peut arriver à une telle distance ? Simplement, il n'a pas la culture du regard. Il n'a pas l'habitude de se regarder vivre. Quelqu'un doit apprendre tous les jours à se regarder vivre, à s'écouter parler, à s'écouter penser. Mais est-ce que tu t'entends penser ? Écoute cette pensée, tu es un pourri. Tu es en train de calculer comment est-ce que tu vas habituer quelqu'un à recevoir ta bonté pour créer une dépendance qui fera que la reconnaissance, elle sera tellement puissante que le jour où tu lui demanderas quelque chose, elle sera obligée d'accepter par le fait qu'elle est liée à la reconnaissance. Et ça, tu ne lui as pas encore rendu service. Ça veut dire que tu es un tarbouleur ou là, une tarbouleuse de folie. Il y a des gens comme ça qui toute la journée. Toute la journée, tu le vois avec une calculatrice. Bonjour, ça va ? Deux minutes. Oui ? Non ? Tu ne me rapportes pas assez, dégage. Pardon ? Dégage, tu me prends la tête. Non, mais je voulais juste savoir. Tu es en train de me coûter de l'argent, là. T'as pas compris ? Allez, dégage. Non, mais je suis milliardaire. Assieds-toi, viens, on va parler. Tu es fou ou quoi ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la personne, elle doit avoir ce réflexe perpétuel de se regarder vivre pour apprendre à savoir qui elle est. Mais elle va gagner un temps fou. Parce que tous les problèmes de susceptibilité, tous les problèmes de regard des autres, tous les problèmes de complexe, tous les problèmes de malaise existentiel, tous les problèmes de différence entre ton être intérieur et ton être extérieur, tous les malaises de ne pas être compris, de ne pas savoir, de ne pas être aimé, tout ça vient de quoi ça ? Ça vient du fait que tu as une trop grande distance anesthésique entre ton être intérieur et ton être extérieur. Mais si tu sais qui tu es, tu gagnes un temps fou. Ça s'appelle des otav shel adam neviatan min alev. Les pensées de l'homme, elles proviennent du cœur. Donc quand toi tu vois la trace entre ce que tu dis, ce que tu penses et ce que tu ressens, et que tu vois le lien, il n'y a pas de malaise. Donc tu peux dire, bon, je me suis trompé, c'est vrai, je voulais pas le dire, bon, c'est une chose. Mais non. Il dit, ubizman sheli botov, toujours le Rambam, Maïmonide. Il dit, et dans tout le temps qu'un homme a un cœur complet, c'est-à-dire que son intérieur est construit, midotav yesharot, ses qualités, c'est-à-dire ses comportements, ses attitudes, sont droites. C'est quoi droit ? Droit, c'est pas le contraire de tordu. Droit, c'est ce qui obéit à une certaine perpétuité. Par exemple, entre deux points, on peut tracer une droite. Une droite, d'accord ? Maintenant, cette droite, si vous arrêtez aux deux points, ça s'appelle un segment. Si vous la prolongez, elle s'appelle une droite. Jusqu'où elle peut aller ? Infini. Quand quelqu'un pense quelque chose, normalement, ça doit être à l'infini. Quand quelqu'un dit quelque chose, ça doit être à l'infini. C'est pas genre, non mais j'ai dit ça, mais attends, je t'explique. C'était un contexte, bon, il y avait des personnes qui... Bon, je ne pouvais pas me... Bon, ça dépendait. Dis-moi, t'es qui, toi ? T'es pas un peu caméléon sur les côtés ? T'es qui ? Tu dis une chose. Tu dis une chose, tu fais une chose. Tu t'engages. Tu regardes, ça t'appartient. C'est toi. Ça s'appelle Midotav Yesharot. Maintenant, quand quelqu'un construit ses midotes, c'est pas qu'il construit une série de comportements, une série de mimiques. On dit il a des bonnes midotes. Mais on dit d'une jeune fille qu'elle a des bonnes midotes. Oui. Non, les bonnes midotes, ce n'est pas les bonnes mensurations. Les bonnes midotes, ce sont les bonnes qualités que la personne, c'est intrinsèque à elle. Maintenant, ce n'est pas lié à un milieu. Elle est comme ça, même la nuit, quand elle rêve et qu'elle fait un cauchemar, quand elle dit un gros mot, elle dit pardon. Mais elle dort. C'est intrinsèque. Elle ne peut pas faire de la peine. Il ne peut pas être méchant parce qu'il est trop gentil. C'est intrinsèque. Ah, s'il fait semblant. Le bruit de fond est optionnel ou c'est, ça fait partie de l'ambiance? S'il fait semblant, c'est sûr que de temps en temps, il va y avoir des décalages. Parce qu'il fait semblant. Alors, on peut être un très bon acteur, mais il y a un moment, on glisse, on sort des studios. Et les gens, ils ne sortent pas du studio, mais il y a un moment, tu sors du studio. Alors, quand tu sors du studio, on t'attrape en flagrant délit, tu dis, mais alors? Et c'est trop fort, parce qu'un bon acteur, quand tu l'attrapes, tu lui dis, mais vous avez été vraiment vous-même sur ce rôle? Il dit, oui, j'étais vraiment moi-même. Je dis, mais là, vous jouez un rôle d'un nazi. Il dit, oui, c'était un rôle... Vous êtes vraiment identifié, bah, disons pas moi, mais mon père. Bon, ah bon, d'accord. Donc, mais le lendemain, vous étiez en train de jouer le traître. Et trois jours après, vous étiez en train de jouer. Combien quelqu'un peut jouer de rôle? Vous savez, un oiseau, quand vous voyez un petit oiseau devant vous, regardez-le bien. Même si vous le regardez avec intensité et que vous lui donnez de l'importance et que vous lui donnez de la valeur, et même vous installez une caméra avec des projecteurs, il ne va pas devenir un crapaud. Il va dire, ah maintenant qu'on me regarde, je vais faire le crapaud. Un oiseau est un oiseau, il reste un oiseau. Un acteur, c'est son métier de changer de rôle. Il change tellement de rôle qu'à la fin, il ne sait plus qui il est. Il ne sait plus. Qui es-tu? Je ne sais plus. Moi-même, je me surprends à ne plus être... Enfin, pas moi-même, je ne peux pas dire ce mot, parce que je ne sais plus. C'est pour ça qu'il parle toujours par citation, parce qu'ils n'ont rien à dire. Mais toi, tu dois être toi-même. Il y a un moment, tu rentres à la maison, non? T'es chez toi, c'est qui? À qui on parle? C'est toi. Bon, tu sais, je ne sais pas, je m'identifie. Qu'est-ce qui se passe là où il y a un problème? Il y a plein de cafés. Si vous voulez parler, il y a plein de cafés dans le coin. C'est un rendez-vous privé ici, c'est pour les copains. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que à partir du moment où quelqu'un n'est pas lui-même parce qu'il joue un rôle, et il veut s'identifier, alors tous les gens qui veulent s'identifier à des gens qui jouent un rôle, est-ce qu'ils ont une chance un jour de devenir eux-mêmes? Ouais. Tu dois t'identifier à quelqu'un qui existe. Tu ne dois pas t'identifier à quelqu'un qui fait semblant d'exister, même s'il le fait bien. Vous comprenez ou non? C'est pour ça que les trois quarts, ils sont obligés de trouver des encouragements chimiques. Parce que c'est très très dur de ne pas être soi-même. C'est très dur. Quand tu rentres chez toi, tu dis, mais alors je ne suis pas le héros que les gens croient. Mais tu peux être un héros. Vas-y, va en Vietnam, va en Irak. Ah non, c'est dangereux. Et puis il part en Irak, il dit, je peux emmener avec moi le cascadeur? Il dit, non, c'est la guerre, là. Quoi, c'est pas des balles en plastique? Ben non, c'est des vraies balles. Regarde, l'autre, la cervelle éclatée, tu crois que c'est quoi? C'est la réalité, c'est comme ça. C'est du ketchup? Non, c'est... Quoi, c'est vrai, le mec, il s'est pas fait doubler? Non, là, il est doublé pour une fois pour toutes. Il est pas doublé, il est quadruplé, regarde, ils l'ont mis partout, d'accord? Donc, il s'est marqué ici, comme il dote celui qui est complet, toutes ses qualités sont droites. Vedeotav nechonot, et ses pensées sont nechonot. Nachon en hébreu, ça veut dire vrai. Mais nachon, ça vient du mot mechuvan, la racine kivun. Kivun, ça veut dire quoi? Ça veut dire orienté, ça veut dire qui a une direction. C'est quoi nachon? Ça veut dire que tes pensées, on sent qu'elles font partie d'une certaine direction. Comprenez? C'est pas aujourd'hui tu penses ça, après tu dis ça, après tu repenses autre chose, après tu. Ata nachon, c'est nachon, machata omer. C'est quoi nachon? C'est mechuvan. Ça va avec toi. Ça colle avec ce que tu dis. Maintenant, celui-là, on le connaît. C'est une tête dure. Mais il est toujours une tête dure. Mais il est vrai. Mais il a une tête dure. Celui-là, il est très cool. Mais il est cool, hein. Mais il est vrai. Mais il est cool. C'est pas grave le genre. Il est genre, il est dur, il est cool. C'est pas grave. Mais il est vrai. Celui-là, non, il est dur, il est cool. Il est. Hey, t'es qui toi? Ce qui est marqué ici. Nechonot, ça veut dire vrai. Vrai, ça veut dire quoi? Ça veut dire établi. Ça veut dire matim. Emet, c'est matim. Emet, ça veut dire que c'est en phase avec la réalité. Tu es en phase avec toi-même. Tu es en phase avec ce que tu vis, avec ce que tu fais. Donc, si cette personne-là, elle est en phase, donc automatiquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle accepte la réalité que la vie lui propose. On a dit quelqu'un, il accepte son être intérieur. Il accepte son être extérieur. Et il accepte la réalité que Hachem lui propose. Alors, je vous ai déjà dit cette question 1000 fois, mais je vous la répète. Est-ce qu'il vaut mieux 3 costumes confection ou 1 costume sur mesure? Quelle différence? Le costume sur mesure, tu peux l'acheter à 24 € si tu as un copain au sentier. Le costume confection. Le costume sur mesure, il coûte 12 000 francs. Mais pourquoi c'est tellement cher? Parce qu'il te va bien. Il te va juste. Le costume confection, au bout de 3 mois, il s'use entre les jambes. Là, la couture, elle s'ouvre. Là, ça ne te va pas. Là, il faut que tu fasses une rouge devant, mais la ligne derrière. Puis, tu as une jambe plus courte que l'autre. Là, ça te rentre sous les bras. Tu dis, mais il me va bien. Ouais, il fait genre Kenzo. Mais derrière, il fait quel genre et Confo. Ah bon, d'accord. Bon. Ouais. C'est de la confection. Alors, la question est simple. C'est une question très importante auquel je vous demande de réfléchir en moyenne une fois par jour. Le costume, c'est quoi? Ta femme, ton mari, tes enfants, tes parents, ta réalité, ton corps, tes capacités intellectuelles, tes capacités émotionnelles. Ça, c'est ton costume. Est-ce que tu penses que ton costume est sur mesure ou c'est un costume confection? Normalement, si tu crois en Dieu et tu penses que Dieu est un bon tailleur, donc il t'a fait un costume sur mesure. Donc, ce n'est pas la peine de te déchirer la tête avec ta femme ou avec ton mari, de refuser tes parents, de faire 10 ans d'orthophonie pour enlever ton accent marocain. Ça ne sert à rien. Non, des fois, je dis tunisien, des fois, je dis marocain. Je ne peux pas dire à chaque fois, tunisien, ils vont... Non, ça va, détendez-vous. Non, on a eu une sortie de secours. Non, alors... Donc, ça ne sert à rien de refuser ta réalité parce que c'est ta réalité. Comprenez-vous, non? C'est comme les gens qui ont des enfants durs. On a, au Hachem, on a des enfants durs. Dieu bénisse, on a des enfants durs. Si quelqu'un dit, c'est trop dur, j'en peux plus, c'est pas facile, et qu'est-ce que c'est, d'où ils sortent, c'est pas les miens, c'est les tiens. Ça sert à rien. Ils sont là, ils sont nés, ils sont là. Quand ils étaient petits, t'avais encore la solution du sac en plastique, maintenant c'est trop tard. J'ai pas compris. Mais vous êtes hypersensible pour des gens qui ont la télé, je comprends pas. Vous devez du sang partout, des nerfs partout, vous devriez vous habituer. Les faits divers, même en été, il y a des faits divers, vous n'êtes pas habitué encore. Bon, alors, maintenant qu'ils ont grandi, ils ont été déclarés à la CAF, ils sont à l'école, tu peux plus t'en débarrasser. Faut trouver un médecin sympathique qui explique comment un type il a pu glisser dans l'escalier alors qu'il n'y a pas d'escalier. D'accord. Bon. Donc, il va falloir que tu assumes. La seule différence, c'est que tu vas assumer, mais en plus, ça va être lourd. Est-ce que vous me suivez? De toute façon, c'est ta femme. Jusqu'au divorce, c'est ta femme. Donc, tu dis, c'est ma femme, mais en plus, c'est lourd. Tu sais, mon mari, mais c'est dur, j'en peux plus le voir, j'en peux plus. D'accord. Tu peux te plaindre, tu as le droit. Tu peux. Tu prends un des murs de la maison, tu peins des grosses pierres dessus, tu mets quelques petits feuillages. On va s'appeler le mur des lamentations. Et tous les jours, tu iras devant. D'accord. Le problème, il n'est pas là. Le problème, il est que c'est ta vie. Jusqu'à ce que ça change, c'est ta vie. Maintenant, si c'est ta vie, c'est un costume sur mesure. Maintenant, est-ce que toi, tu acceptes ton costume? Tu acceptes de vivre avec, tu acceptes de travailler avec, tu acceptes de développer avec. Tu dis, mais c'est très dur. Ça ne change rien, tu peux pleurer, ça ne change rien, c'est ton costume maintenant. Vous comprenez ou non? Donc les gens, le temps qu'ils passent à pleurer, eh ben, ça ne change rien. Comme quand tu t'énerves dans un costume serré, ben, ça fait de la sueur en plus. Mais le costume, il est toujours sympa. Vous comprenez ou non? Donc, Akadosh Baruch Hu, il t'a fait un costume sur mesure. Quand toi, tu l'acceptes, tu dois l'optimiser. Ton fils, il est comme il est, alors tu travailles avec lui. Ta fille, elle est comme elle est, tu travailles avec elle. Tu dis, mais elle est têtue. Moi, ça va te travailler les midotes. Et l'autre, il est radin. J'ai un fils morphal et une fille anorexique. Alors, qu'est-ce que je fais? Je fais quoi à manger? Oui. Je me demande même si elle n'est pas devenue anorexique parce que l'autre, il lui demande à manger à chaque fois sa part. Elle a renoncé, elle a dit arrête, j'en peux plus. La dernière fois, il a mangé la nappe, j'en peux. D'accord. Comment tu vas faire? Mais c'est comme ça. Donc, là que je me crouille, t'as envoyé ça, c'est parce que c'est sur mesure. Donc, à l'intérieur de toi, il doit y avoir un peu d'anorexie et un peu de boulimie. Un peu les deux. C'est comme ça. Ah, tu dis, peut-être c'est ma femme. Non, c'est minimum 50-50. C'est pareil, tes parents, c'est tes parents. Tu dis, mais quand eux, c'est mes parents. J'ai fait l'école des beaux-arts et l'ENA, et eux, c'est mes parents. T'as fait les beaux-arts? Bon, je t'ai inscrit, d'accord. Tu rejettes pas ta famille parce que c'est de là d'où tu viens. Tu rejettes pas des enfants parce que c'est là où tu vas. Et tu rejettes pas ton conjoint, c'est ton présent perpétuel. Ça sert à rien, c'est un miroir. si c'est comme ça, Rabotaï, donc la réalité qui est devant moi, je dois être lié avec. Parce que c'est l'échange que j'entretiens avec cette réalité qui me fait évoluer, c'est ça qui me fait grandir. Maintenant, si je refuse la réalité, ça ne change pas la réalité. Par contre, moi, ça m'empêche d'optimiser la réalité. Donc l'enfant, c'est des questions, réponds. Ton mari, c'est des questions, réponds. Ta femme, c'est des questions, réponds. Réponds aux questions que la vie te pose, parce que ton costume est sur mesure. Si tu refuses ça, parce que tu crois que tu n'es pas lié à la réalité, tu crois que tu peux te débarrasser de tes responsabilités, tu crois que tu n'as pas à assumer tes efforts de maturité, c'est impossible, c'est ta réalité. Maintenant, celui qui est Lev-Tov, celui que son être intérieur est construit, vous avez bien compris maintenant, après ce qu'on vient de dire, que ce qu'il a construit son être intérieur, c'est grâce aux épreuves qu'il a eues à l'extérieur. C'est parce qu'il a répondu aux questions de la vie qu'il a trouvé les réponses qui étaient en lui. Maintenant, tu ne peux pas séparer la question et la réponse. Il y a eu des milliers de questions, il y a eu des milliers de réponses. Lui, il est le fruit des milliers de réponses. Pourquoi ? Parce qu'il colle avec sa réalité. Mais celui qui refuse sa réalité, il ne répond pas aux questions. S'il ne répond pas aux questions, il n'évolue pas. C'est pour ça que c'est marqué « Venimtsa samehar bechelko ». Celui qui a Lev-Tov, il est sa mère Bechelko. Il est heureux de sa part. C'est quoi heureux de sa part? C'est quoi sa mère Bechelko? C'est quoi? C'est que j'ai une vie pourrie, dans un monde pourri, avec une santé pourrie, mais je suis content. Non! C'est ma vie. C'est ma vie. Je dis, mais oui, mais l'autre. Mais l'autre, c'est sa vie. Vous n'avez pas compris encore? Il y a ta vie, il y a sa vie. Il dit, oui, moi je me trouve grosse, et moi je me trouve mec, et moi je suis malade, et moi je suis en bonne santé, et moi je suis. Tout le monde a un travail à faire. Celui-là, il a les jambes cassées. C'est une chose. Celui-là, les bras coupés. C'est une autre maladie. Celui-là, il est coupé du respect. Il a un problème de respect. Il est handicapé du respect. L'autre, il est handicapé de la vue. Il ne voit pas. Il voit que lui. Il ne voit pas les autres. C'est un autre handicap. D'accord. C'est une cécité précoce, profonde. Celui-là, il est égoïste à mourir. Il respire le moins possible de peur d'user ses poumons. D'accord. Donc, il y a des gens comme ça, ils dévissent les ampoules en allant se coucher. On dit, si hazve shalom, je l'allume la lumière en me réveillant. Il y a des gens comme ça. Donc tu vois qu'il y a plein de gens malades. Seulement, il y a des malades qui sont reconnus par la sécurité sociale, il y en a qui ne sont pas reconnus. Tu veux que je te dise, chacun, il a sa petite maladie à régler. C'est pas grave. Enfin, c'est grave alors. Quoi, il n'y a pas quelqu'un de normal? Mais mon frère, normal, ça veut dire quoi normal? Normal, c'est normé. Mais normé à quoi? Normer à qui? L'erreur, c'est de se normer à l'autre. Je regarde l'autre. Je me norme à l'autre. Tu ne peux pas être normal si c'est normé à l'autre. Normal, c'est par rapport à toi-même. Seulement que l'autre te pose des micro-questions qui font chez toi des micro-effets. C'est ça qui va te construire au fur et à mesure. Maintenant, toi, tu es une question pour l'autre. Et toi, tu es une réponse pour l'autre. Des fois, tu es une question, des fois, tu es une réponse. Et puis, on va s'aiguiser les uns les autres. Pour grandir, pour évoluer. C'est comme ça. Mais si je refuse, je dis non. Je ne veux pas apprendre avec les autres. Je ne veux pas apprendre avec ma réalité. Ça ne marchera pas parce que ça sera ta réalité et en plus, elle va te peser et en plus, tu ne vas pas évoluer. Alors si c'est comme ça, on a compris. Celui qui est Lev-Tov, celui qui est construit à l'intérieur, il est aussi construit avec l'extérieur. On appelle ça l'erolam te'edarto shel adam me'orevet imabriyot. L'esprit de quelqu'un doit être mélangé avec les créatures. C'est quoi mélanger? Mélanger, ça veut dire adapter. Il fonctionne, vous comprenez ou non? Avec celui-là, il faut être cool, celui-là, il faut être un peu dur, celui-là, il faut lui mettre une petite claque, celui-là, il faut l'encourager, celui-là, il faut l'écouter, celui-là, il faut lui parler, celui-là, il faut se taire, celui-là, il faut lui faire les gros yeux, celui-là, il faut faire les petits yeux. Chacun, il a son besoin. Tu dis, mais quoi, il faut être adapté à tout le monde? Mais bien sûr, il faut être adapté à tout le monde, pourquoi? Parce que c'est pas parce que les autres, ils ont besoin de toi, c'est parce que toi aussi, tu as besoin des autres. Chaque personne que tu côtoies un jour dans ta vie, ça veut dire qu'elle a un message à te transmettre. Vas-y, débrouille-toi. Ne rate pas le message. Sinon, on va te représenter encore. Donc, automatiquement, c'est marqué. Umitraber imatovim. Celui qui est complet, qui a un cœur complet, donc une intériorité complète, il va se lier, mitraber imatovim, avec ceux qui sont complets. Est-ce que vous me suivez? Les gens complets, c'est des gens qui sont devenus complets. Comme ils sont devenus complets, c'est parce qu'ils sont remis en cause. Donc les gens qui se remettent en cause ne sont pas dérangés par les gens qui se remettent en cause. Donc les gens qui se remettent en cause s'attirent. Par contre, les gens qui ne se remettent pas en cause, ouais, ils ne peuvent pas être attirés par des gens qui se remettent en cause parce que ça les remet en cause. Alors ils font des clubs. de non-remise en cause. Pas confondre avec les clubs de remise en forme. Pour les gens qui ont été déformés. Oui. Donc, qu'est-ce qu'il fait, lui? On dit donc, les gens complets, ils sont attirés par les gens complets. Les gens incomplets, ils sont attirés par les gens incomplets. Et ils vivent comme ça, tranquillement. Ça fait des genres de troupeaux qui se baladent. Vous allez me dire, mais c'est faux. Parce que des fois, quelqu'un d'incomplet qui veut devenir complet, eh ben, il est attiré par quelqu'un de complet. Ça s'appelle l'admiration. Ça s'appelle l'ambition. Alors, il dit des bêtises aujourd'hui. Peut-être mardi aussi, dernier. Je dois vous dire quelque chose de très important. Donc, il ne faut pas que j'oublie. Voilà. Alors, à Bataille, c'est simple. Quelqu'un d'incomplet qui est attiré par quelqu'un de complet, c'est ce qu'on appelle une illusion d'optique. Tu crois qu'il est incomplet, il est complet. Seulement lui, il est complet potentiel. C'est-à-dire celui qui veut être complet, il est déjà complet. Le vrai problème, c'est quoi? Ça s'appelle Bakashat Arorma, la recherche de la sagesse. Ça s'appelle la pétillance. Ça s'appelle le vouloir être. Ça s'appelle la volonté. Ça s'appelle la sincérité. Quelqu'un qui veut, il est déjà soigné. Après, il reste plus l'aspect technique à développer, qui est l'acquisition et le devenir. Mais déjà, il veut. Donc, les gens qui veulent, ils vont aller chercher des gens qui sont. Parce qu'ils veulent être. Maintenant, les gens qui ne veulent pas, ils ne vont pas se mettre avec des gens qui sont. Parce que c'est dangereux pour eux. Parce qu'au bout d'un moment, les gens qui sont, ils vont leur dire, mais tu n'es pas. On dit, mais c'est pas grave. Toi, tu n'es pas, moi, je ne sais pas, personne est. On est. C'est un club d'absents. On est dans un club d'absents. Ça s'appelle les absents. Ça va, et toi? Ça va, ouais, ouais, toi? Ouais, ouais, ça va. Où t'étais? Ouais, j'y étais. Je visiterai demain, moi. On se voit là-bas? Ouais. Je te laisse mon numéro, mais tu l'as. Bon, c'est pas grave, prends-le quand même. Ouais, ouais. Tu dis, mais j'ai vécu, là? J'étais quoi? J'étais une excroissance de vapeur de peau d'échappement. J'étais quoi pendant 5 minutes, là? J'ai rencontré qui? J'ai fait quoi? La vie est courte, Rabotai. La vie est courte. Tu peux pas prendre 3 après-midi par semaine pour rien. C'est une grave maladie, je vous dis, c'est une maladie qui a été créée par SFR, vous vous rappelez ou non? Je vous ai expliqué il y a 2 semaines. Ça s'appelle le millénium. C'est une grave maladie. Le mec qui t'appelle, il dit, écoute, j'ai rien à dire, mais comme j'ai le millénium, non mais j'ai des choses à faire, non mais moi j'ai le millénium, alors faut que je te parle, j'ai le millénium, mais jette-le à la poubelle. Comme ça peut-être tu auras quelque chose à faire dans ta vie au lieu d'utiliser ton millénium. Ah Bataille, on peut avoir un forfait de téléphone, mais on n'a pas un forfait de vie. Un jour la vie... C'est fini? Non, non, j'ai le millénium. Ah bon? Vous comprenez ou non? Donc, mitraber imatovim, c'est-à-dire que celui qui est complet et qui cherche à être complet, alors il va s'accrocher avec quelqu'un de complet. Ve'eno chafetz ela bedavar shiesh bo tohelet. Et il ne recherche que des choses qui ont une valeur constructive. L'eau efsed et qu'il n'y a pas de gaspillage. Quelqu'un qui en appelle de construction perpétuelle ne supporte pas le gaspillage. C'est quoi le gaspillage? C'est pas un problème, tu as pris 2000 euros pour t'amuser, tu dis c'est honteux, tu gaspilles. Non, le gaspillage, c'est le gaspillage d'énergie vitale, par exemple. Pendant 2 ans, tu as cru à cette amitié. Donc c'est sûr que ça allait se finaliser, puisque vous avez tout finalisé sauf le mariage. Donc tu t'es dit c'est bon. Et puis après, tu dis non, tu sais, je crois qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre. Tu dis comment on n'est pas fait l'un pour l'autre, mais on était fin dans l'autre. Depuis des mois et des mois, on était l'un dans l'autre. On ne peut pas être fait l'un pour l'autre. Il dit non, nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Tu comprends ton accent, tes origines, ton teint de peau. Mais comment je vais faire? C'est mon teint de peau depuis le début. Oui, mais tu comprends, je ne prends pas. Et puis en plus, tu as une copine trop mignonne. Et... C'est ça le gaspillage. Ça veut dire 2 milliards de mégatonnes d'émotions qui ont été investies dans les toilettes. Des gens comme ça. Au lieu de te dire, tu sais, il faut savoir tirer la chasse, comme ils sont polis, ils te disent, tu sais, il faut savoir tourner une page. Mais toi, ton sentiment, c'est comme si ta vie, elle est partie dans la chasse, 2 ans comme ça. Où ils sont? Essaye de les rattraper. Tu dis, mais c'est ma vie quand même. Non, c'est pas grave, tu sais, c'est des moments comme ça, on a pu y croire. Alors tu lui dis, bon, franchement, on va se quitter, mais rien que dis-moi la vérité. Toi, au fond, t'y croyais? On lui dit, non. Je t'avais dit d'acheter un fusil, tu m'as pas écouté. C'est ça le gaspillage. Le gaspillage de se mettre dans des causes qui n'ont pas d'avenir. Le gaspillage, c'est de faire des études qu'on n'aime pas. Le gaspillage, c'est de s'impliquer dans un métier pour faire plaisir à sa mère. C'est ça le gaspillage. Parce qu'au bout de 14 ans, qu'est-ce que tu vas faire avec ces 14 ans-là? Qu'est-ce que tu vas faire avec les 14 ans? Sa mère, elle est contente. Tu dis, ah, ma fille, tu es une avocate. Tu m'as fait plaisir. Tu m'as fait plaisir. Mais je suis répressive aussi. C'est une option? Non, c'est...
Bon. Si c'est comme ça, Rabotaille, celui qui cherche à se construire et qui a compris que la réalité, elle est là pour répondre à des questions, elle est là pour donner des réponses, perpétuellement, il va être en phase, perpétuellement, il va être en travail. Donc, puisqu'il connaît la potentialité extraordinaire de réalisation qui est contenue dans la réalité, il n'aime pas le gaspillage. Par contre, il aime tout ce qui est constructif, tout ce qui est positif. Oui. Il va parler, il parle pour quelque chose. Il fait quelque chose. Il investit. Il pense. Il dort. Il dort bien. C'est le moment de dormir. Il mange. Il parle. Il respire. Si les gens, ils savent pas respirer. Viens ici.
Arrête-toi là.
Oui.
Écoute, j'en peux plus. Arrête. Voilà, tout le monde est mort, tout le monde a disparu, tout est foutu, tout est. Il n'y a plus rien. Ah bon? Oui. Respire. Quoi? Respire. T'es sûr? Oui, respire. Vas-y. Ça va mieux? Ah ouais, ça va mieux, dis donc, c'est incroyable. Tu sais qu'un cerveau qui est sous-alimenté en oxygène ne peut plus être utilisé et qui peut atteindre presque le coma. Il y a des gens, ils sont dans un coma émotionnel parce qu'ils n'alimentent plus leur cerveau en énergie vitale qui est contenue dans l'air. Donc respire, c'est absorbe l'énergie comme ça. Tu vas chez des gens que tu aimes, dans des endroits où tu te sens bien, où il n'y a pas d'agression, et tu respires. Mais c'est fondamental de respirer. Respire comme ça. Mais les gens, ils vivent le souffle coupé. Les clients, juste le travail, stress, l'embrouille, les horaires, le téléphone, l'angoisse, le portable, le truc, la montre. Après, vous savez, j'ai l'impression d'être asthmatique. Mais respire. C'est-à-dire, il faut respirer physiquement, il faut respirer psychologiquement. Respire. Laisse l'oxygène atteindre ton cerveau. Et ça va mieux. Vous comprenez ou non? Ça va mieux. Il y a des gens qui t'affolent. Grave, écoutez, faut appeler tout de suite, sinon elle va suicider. Regarde. Qu'est-ce qu'elle veut, cette fille? Elle est au bord de la fenêtre. Elle veut mourir. D'accord. Si je l'appelle affolée, elle va sauter. Donc, si je veux la rassurer, c'est ce que je fais? Je respire. Après, je l'appelle, je dis, bonjour, Amélie, oui. Vous êtes au bord de la fenêtre? Oui. Vous voyez la tour Montparnasse de là où vous êtes? Oui, je la vois. Quelle heure il est? Il est 7h, hein? Pas 7 heures, c'est le coucher de soleil. Quelle impression ça fait de voir la brillance du coucher de soleil sur la tour Montparnasse? Écoutez, il n'y a rien de merveilleux, mais enfin bon, ça vaudrait une photo. Puis c'est la tour Montparnasse, et puis c'est un monument quand même, c'est bizarre, c'est un modèle. Vous avez quelqu'un dans votre vie qui vous fait penser à la tour Montparnasse? La fille, elle est partie. Elle a quitté son suicide déjà. Vous comprenez ou non? Ça veut dire que l'assurance que tu contiens, tu la projettes. Mais si toi, tu es paniqué, tu vas projeter quoi? La panique. Une fois, je me rappelle, au début, quand j'ai reçu le téléphone, je n'étais pas habitué, moi, tu fais un numéro, ça s'inscrit en mémoire. Je me suis trompé de numéro. Et ça sonnait chez une dame. Une dame, bon, je ne connais pas son nom, je ne connais pas, une dame qui n'est pas de chez nous. Bon. Elle m'appelle le soir, 1h du matin. Monsieur, vous m'avez appelé cet après-midi. Je dis, écoutez, c'est pas mon genre. Elle me dit oui, et puis en plus c'est du harcèlement. Harcèlement. Elle me dit oui, j'entendais, je vous entendais. Ouais, vous étiez en train de faire quelque chose, et je vous appelais allô, pendant une demi-heure. Moi, après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait le numéro, puis je n'ai pas vu que ça a truqué, je l'ai laissé, mais je l'avais dans la main. Et puis l'autre, elle croyait que j'étais en train de lui faire le coup de l'intox mytho. Alors je dis, écoutez, madame, je suis quelqu'un de très occupé, j'ai pas le temps de faire des numéros hasard. Pour tomber sur quelqu'un que 1/2 est féminin, d'accord? Pour essayer d'établir ou là quelque chose, ou là une pression, ou là. Elle m'a dit, je vous trouve bien sûr de vous. Je lui ai dit, c'est normal, je travaille dans l'assurance. Comme ça, hein, véridique, hein. Elle me dit, vous vendez des polices d'assurance? Je lui ai dit, non, je vends de l'assurance. Je rassure les gens. Les gens assurés, je les rassure. Mais s'ils sont déjà assurés. Bon, j'ai dit, laissez tomber, on se verra une autre fois. D'accord. Ça veut dire qu'on ne peut pas rassurer si on n'est pas rassuré. Vous comprenez ce que ça veut dire ou non? C'est exactement pareil. Alors, comment ça s'appelle ça? C'est marqué. Il dit le Rav Dessler. Celui qui veut essayer d'influencer les autres, il faut déjà que lui-même qu'il est un peu complet. Parce que tu vas transmettre quoi? Le moitié qui projette la moitié, qui fait une moitié dans le but d'une moitié. Qu'est-ce que ça peut donner au maximum? Le centre de la cabale. Qu'est-ce que ça peut faire? Ouais. On peut pas faire quelque chose de sérieux. Ça va se terminer bizarre. Pour mettre les téfilines à des vedettes américaines, ou là, des fils rouges à la moitié d'Hollywood. Parce que tu démarres d'une moitié, qui projette la moitié, qui fabrique des moitiés dans le but de plaire à des moitiés. Alors ça fait un monde de moitié. Il s'est marqué ici. Alors, regardez le Rabbi Nouyona, il continue un petit peu cette définition. Regardez ce qu'il dit. Nire le faresh ki leftov, il semble que leftov, le cœur complet, c'est midat haratzon. Le mot ratzon, il a deux sens en hébreu. Il veut dire volonté, ratson, mais il veut dire aussi agrément. Par exemple, quand on dit yé ratson, ça veut dire que la volonté d'Hachem soit, d'accord? C'est-à-dire que quand on dit uretse bemenuchatenu dans la prière de Shabbat, on dit et qu'Hachem agrée notre Shabbat, qu'il agrée notre sacrifice. Maintenant, c'est quoi? Ta bonne volonté à toi s'appelle le ratson. La bonne volonté de l'autre s'appelle l'agrément. Maintenant, quand toi, tu veux être agréé par quelqu'un, il faut que tu produises une énergie qui est la même que celle que lui produit, ou que celle que tu veux que lui produise. Donc quand tu vois, tu produis de la bonne volonté, tu encourages l'autre à exprimer de la bonne volonté. Ça s'appelle la rencontre des deux bonnes volontés. On appelle ça avoir un feeling, on appelle ça se comprendre, on appelle ça être sur la même longueur d'onde. Tu veux construire quelque chose avec quelqu'un, tu te construis et tu projettes ce que tu as construit. Maintenant, quand toi tu existes pour quelqu'un, tu l'encourages à exister pour toi. Alors il y a une chance que vous coexistiez. Mais si tu dis, moi je ne vais pas exister, mais je vais trouver quelqu'un qui va m'aider à exister. What? Des capsuleurs. C'est impossible. Parce que si toi tu n'es pas construit, tu vas rencontrer quelqu'un aussi qui n'est pas construit. Tu dis, mais moi je l'ai fait dans le but de trouver quelqu'un qui me construit. Eh bien lui aussi, il a fait ça dans le but de trouver quelqu'un qui le construit. Seulement que vous n'avez pas le même manque à combler. Mais les deux, vous êtes manquants. Mais vous allez essayer de combler avec quelqu'un qui lui-même a un manque à combler. Vous me suivez ou non? Le contraire. Toi, tu te construis. Et l'énergie que tu dégages en phase de construction, elle attire des gens qui eux-mêmes sont en phase de construction ou construits. Pourquoi? Ça, c'est un truc incroyable. C'est que le degré d'intensité que quelqu'un peut atteindre dans la spontanéité de sa sincérité, il peut être comparable parfois à des gens qui ont travaillé des années et des années sur leur intériorité. Vous avez compris ou non? Je ne peux pas redire des phrases comme ça, mais moi je ne me rappelle plus. Soyez un peu... Ayez pitié. Bon, j'ai l'idée dans la tête, les mots je ne les ai plus, mais j'ai l'idée. Quand quelqu'un il a une intensité, c'est-à-dire qu'il veut essayer de produire quelque chose qui vient vraiment très très profondément de son intimité sincère, alors il peut atteindre un niveau d'intensité qui peut être proche d'un travail qui a été produit par des années par une autre personne. Pourquoi? Parce que dans l'essentiel, on ne mesure pas les choses comme dans la réalité. Dans la réalité, dans la face extérieure des choses, ça prend énormément de temps pour devenir. Mais dans ce qu'on va devenir, c'est ce qu'on va réussir à imprimer à l'intérieur de soi. Mais il y a des gens, ils sont tellement purs, ils sont tellement sincères, ils sont tellement intenses, qu'ils arrivent dans un temps très court à atteindre des niveaux qui ont mis des années par d'autres pour être atteints. Pourquoi? Parce que la sincérité, c'est une finalité ou c'est un démarrage? Est-ce que pour démarrer, il faut être sincère? Ou alors le plus dur, c'est de terminer sincère? En fait, je vous ai déjà répondu à cette question, je ne sais pas pourquoi je vous la pose. Je vous ai dit que quelqu'un, quand Baruch Hashem, il est sincère, le plus grand danger pour la spontanéité, c'est le professionnalisme. Maintenant, plus quelqu'un est professionnel, moins il est spontané. Maintenant, c'est quoi les artistes? C'est les gens qui ont dépassé la technique du professionnalisme et qui ont gardé leur sincérité. Exactement pareil. Au départ, tu es spontané, tu veux aider les gens. Après, tu apprends une technique. Maintenant, est-ce que ta sincérité, elle va traverser ta technique pour que ta spontanéité, elle traverse ta technique? Pour que quand tu es en face de la personne que tu veux aider, c'est ta spontanéité spécialisée qui va l'aider ou c'est juste ta spécialité? Vous comprenez ça? Une fois, c'est un professeur de Beaux-Arts qui m'a dit ça. Je ne sais pas s'il a compris ce qu'il m'a dit, mais moi, j'ai compris comme ça. Il m'a dit, dans le monde, il y a deux personnes qui dessinent bien, les enfants et les artistes. Au milieu, il y a les techniciens. Maintenant, il y a beaucoup d'enfants qui, en apprenant à dessiner, ils oublient de dessiner parce qu'ils ne représentent plus ce qu'ils voient, mais ils salissent leur feuille. Ils remplissent la feuille. D'accord ? Mais le très spontané en dessin, c'est l'enfant. Parce que l'enfant, il n'y a pas de coupure, c'est du laser entre ce qu'il ressent et ce qu'il met sur la feuille. Ça représente ce qu'il met. L'artiste, il a dépassé la technique pour réussir à exprimer ce qu'il ressent sans être emprisonné par les obligations que la technique l'oblige à appliquer. Et entre les deux, il y a les techniciens, les architectes. Il y a quand même un certain côté artistique. Il n'y a pas de génie. Et c'est quoi le génie ? C'est quoi le génie ? Le jnoun, c'est quoi ? Le génie, c'est l'étincelle de la neshama qui a réussi à traverser la technique du psychique pour aller s'imprimer dans l'acrylique qui est sur le tableau. Regardez Manuel. Manuel, qu'est-ce que c'est Manuel ? Manuel, le peintre en bâtiment. Manuel Portoros. Il a peint un mur. Il a peint un mur. Bon, tu viens, tu vois un mur. Tu crois que Manuel, quand il va finir, il va signer le mur ? Il va signer le mur ? Ah non, tu dis, mais c'est un peintre en bâtiment, il va pas signer un mur. Un peintre en bâtiment, quand même. Mais il a mis son cœur ! Oh, il a peint un mur ! D'accord, ça c'est Manuel Portoros. Manuel Picasso, un cousin à lui, il a peint un mur en blanc. Et au milieu de ce mur, il a mis un point noir. Ouais ? Il signe en bas 3 millions d'euros. Tu dis, ça fait cher le point noir. Imagine-toi au gommage combien t'as perdu. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'il y a ? Bon, alors. Tu dis, mais j'arrive pas à comprendre. Je comprends pas. C'est un peu du bidon, c'est de la mytho. On se met tous comme ça devant. Tous les grands spécialistes du cubisme élémentaire de la phase première de Wong. Et on dit, c'est sublime, c'est sublime, c'est sublime. En bataille, c'est beau. Si c'est vraiment un artiste et qu'il a mis son cœur dedans, tout le monde, quand il va regarder ce tableau, va voir la peur profonde qui s'inscrit chez la personne qu'on accompagne au goulag. Et c'est marqué en bas, le goulag. Et tu vois une masse toute blanche, c'est la neige, la Sibérie, avec un point noir. C'est quoi le point noir ? C'est le camp. Et le type en camion qu'on accompagne vers le goulag et qui voit le point noir. Et la détresse de la personne qui est emprisonnée au goulag, c'est ce point noir dans. Et ben le type, quand il l'a peint avec ça dans la tête, quand toi tu le regardes, tu ressens ça. Ça s'appelle le génie. Ça veut dire que la sensibilité, elle a traversé le psychique, elle a traversé les doigts, elle a traversé l'acrylique et elle s'est emprisonnée à l'intérieur des molécules de la peinture. C'est ça le génie. Vous comprenez ou non ? Pourtant, c'est de la peinture blanche avec un point noir. C'est pareil. Toi, tu donnes la recette de la daffina à ta cousine. Et Edwin Daffina, tu dis, c'est un homicide volontaire. T'as cherché à me tuer, là. Non, non, j'ai fait comme tu m'as dit. Je crois que j'ai confondu l'eau avec l'huile. Ah ben oui. Tu prends la même recette, tu la donnes à la Fereha, elle te fait une Daffina, tu la goûtes, tu dis, il faut que je meure maintenant, c'est le dernier truc que je vais avoir dans la bouche. Pourquoi la même recette, elle fait un truc de folie, et là, elle fait un homicide volontaire ? Parce que là, elle a mis le meilleur d'elle-même, donc elle a réussi à emprisonner des énergies d'amour à l'intérieur d'une molécule de patate. Et l'autre, elle a dit, écoute, il me prend la tête avec sa daf, je vais lui faire une daf et c'est tout. Donc c'est une excroissance de serpillère mal gérée. Donc, c'est le génie. Vous comprenez ou non ? C'est la même chose. Maintenant, celui qui arrive à emprisonner ses sentiments pour arriver à les projeter dans la réalité, on dit qu'il a du génie. Alors chez les peintres, on appelle ça un peintre de génie. Chez nous, on appelle ça un tzaddik, parce qu'il arrive, il arrive à aller chercher les étincelles de divine qu'il a en lui, leur faire traverser le psychique, leur faire traverser le physique et les projeter dans la réalité pour que toi, tu puisses en profiter. Comment s'appelle ça ? Ça s'appelle midat haratzon, parce que le ratzon, c'est la volonté. La volonté, c'est l'énergie qui est produite par l'âme. Or, l'âme, elle produit cette énergie, elle le projette dans la réalité, parce que c'est ça qui fait la détermination des moteurs de tes projets, et elle va être reliée avec les personnes de bonne volonté. Donc le lien que tu crées avec une personne de bonne volonté s'appelle Ratson. Ratson chez toi, c'est ce que tu projettes. Ratson chez l'autre, c'est le réceptacle qui reçoit ce que tu as exprimé. Donc, si c'est comme ça, déjà, on a atteint une dimension supérieure. Nous, on parlait que le leftov, ça veut dire que la personne, elle est construite, elle est entière elle-même. Mais là, ça a l'air d'être qu'on ne peut pas être complet tout seul. Il faut être complet à plusieurs. Alors, je vous explique.
On est fait de quatre dimensions. Le vécu, le corps, le psychique et l'âme.
Tu veux faire un dans le vécu avec quelqu'un, d'accord ? On crée une association, on crée un business, on vit dans la même maison, on partage les meubles, on est colocataire. Bon.
On dit partage de vécu.
Tu veux faire un partage psychologique avec quelqu'un, amitié, thérapie, échange, écoute, feeling, d'accord. Tu veux faire un échange physique avec quelqu'un, ça existe. C'est quand on est marié, bien sûr, d'accord. Les échanges de fluides qui vont être faits durant certaines opérations de plomberie communes, d'accord. Mais comment tu vas faire un au niveau de la neshama?
C'est ça la vraie liaison.
Ouais, pourquoi?
Alors là, il faut un peu rentrer dans les notions un peu profondes. C'est marqué Kol Israël arevim zelazé. Tous les bénis Israël sont liés les uns aux autres.
Ça veut dire quoi liés? On fait tous partie d'un seul peuple et on a un seul drapeau et un seul falafel.
Non, c'est pas ça.
Au niveau des âmes, qu'on le veuille ou non, nous sommes liés les uns aux autres. Alors je vous explique. On n'est pas forcément liés avec tout le monde. Sauf que, a priori, toutes les âmes de tous les juifs forment une seule âme qui s'appelle l'âme de Adam Harishon. Mais nous-mêmes déjà, chacun d'entre nous, il est lié à des âmes. Par exemple, c'est possible que vous-même, votre âme, elle est subdivisée avec une âme d'une autre personne, fille ou garçon, en Australie. Et une troisième qui habite à Birmingham, en Angleterre. Et un quatrième qui habite à Istanbul. On est lié par des âmes. Maintenant, ce lien-là, qu'on le veuille ou non, il nous rapporte, il nous coûte. Par exemple, toi, tu dis, tiens, je vais un peu rajouter dans les lois du Shabbat. Alors, je vais faire attention au Shabbat. Maintenant, l'autre âme qui est liée à la tienne, parce que les âmes, elles sont subdivisées aujourd'hui, il n'y a plus d'âme complète. Depuis là-bas, le Shem Tov, il n'y a plus d'âme complète. Donc, les âmes, elles sont subdivisées. Donc, les moitiés, disons, les parties de ton âme à toi qui sont subdivisées à l'intérieur d'un autre corps. Donc, le type de Birmingham, d'un seul coup, il dit, je vais mettre les téphilines. Il ne sait pas pourquoi.
C'est la transmission des âmes, d'accord?
Le contraire aussi, malheureusement, si l'autre là-bas il fait une bêtise et qu'il est lié à ton âme, à toi, toi aussi tu peux prendre sur la tête.
C'est marqué, pour le meilleur et pour le pire. C'est comme ça, d'accord?
Donc, Kol Israël arevim zelazé. Donc, quand on dit à quelqu'un qu'on veut faire un avec l'autre, qu'on veut fonctionner avec l'autre et tout ça, il faut savoir que de toute façon, nous sommes liés les uns aux autres. De toute façon. Donc, on appelle ça un destin commun.
Dans le positif. Dans le négatif aussi.
Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire que moi j'accepte que je suis lié à l'autre? Donc si moi je suis lié à l'autre, ça veut dire que le fait d'être entier, ça ne peut pas, entre guillemets, être conditionné que par le fait que moi-même je sois entier. C'est aussi conditionné par le fait que l'autre soit entier. Alors là, c'est une question profonde. Est-ce que moi, pour être entier, j'ai besoin que l'autre soit entier? Question 1. Question 2. Est-ce que moi, je peux être partenaire du devenir entier de l'autre? Si vous allez me dire, non, chacun sa vie.
On peut penser comme ça. Il y a des gens qui pensent comme ça, écoute, c'est ta vie, c'est ma vie, bon.
Alors ça pose un problème, pourquoi? Pourquoi est-ce que Dieu nous a mis tous sur la même planète? Vous savez que c'est vachement petit la Terre. On est à peu près 6 milliards. Maintenant, si vous allez dire, ben, où on allait se mettre? Il y a 100 milliards d'étoiles dans l'univers. On pouvait se mettre ailleurs. Dieu, il aurait pu mettre chacun dans une planète avec la Torah et nous dire, alors tu fais la Torah ou tu fais pas la Torah? Non, il nous a mis tous dans la même planète et vous voyez les problèmes que ça peut nous créer au niveau promiscuité.
D'accord.
Pourquoi faire? Parce que on a besoin de l'autre pour devenir. Vous allez me dire, mais c'est faux parce que Sartre, c'est pas que j'ai vu Sartre, un des Tartrans. Connu. Ouais. Il a dit l'enfer, c'est. Alors, il avait raison, il avait tort. Jean-Paul, il avait raison, il avait tort. N'aie pas honte. L'enfer, c'est les autres. Il avait raison ou non? À Bataille, il avait tort. Il dit, mais est-ce que moi, je peux remettre en cause Sartre? Non, Ras Shalom. C'est la Torah qui va le remettre en cause, c'est pas moi. La Torah, elle dit le contraire. La Torah, elle dit, l'autre, c'est le paradis. Pourquoi? Celui qui pense que ce monde s'arrête dans ce monde, donc que sa vie, elle est ici. Donc lui,
l'autre peut pas être un tremplin, au maximum il peut être un obstacle, parce que l'autre en existant il l'empêche d'exister. Mais celui qui a compris que sa vie elle est dans l'autre monde, donc le travail qu'il fait avec l'autre, ça lui permet d'atteindre l'autre monde. Parce que la recherche de l'essentiel, il faut quand même comprendre qu'elle passe souvent par l'autre. Donc grâce à l'autre, on va au paradis. Mais celui qui refuse le monde à venir, grâce à l'autre, nous bouffe la vie. Donc l'enfer, c'est les autres. Ça dépend s'il y a un avenir ou non. Exactement pareil. Quand moi, j'accepte que l'autre est là pour m'aider à grandir, ouais, pour peu que moi, j'arrive à supporter la différence de l'autre, alors je peux fonctionner avec l'autre. Donc quand moi, je vais être entier, il faut savoir que je dois être entier avec l'autre. Donc Lev Tov, c'est un problème. Parce que mon cœur, il y en a une partie qui est chez toi, et il y en a une partie qui est chez toi. Pourquoi on s'est rencontrés? Vous avez jamais demandé? Pourquoi on s'est rencontrés, nous? Pourquoi vous m'avez rencontré moi et moi je vous ai rencontré vous? Vous auriez pu aller ailleurs. Pourquoi vous n'êtes pas né là-bas? Pourquoi plutôt pas né ailleurs? Pourquoi vous n'avez pas essayé de voir autrement? Pourquoi vous n'avez pas cherché une autre vérité, une autre approche, une autre blague? Pourquoi? Akjbuchum is avec Zivogim, Rabotai. Hachem, il crée les couples. C'est comme ça. C'est Hachem qui crée les couples. C'est quoi les couples? C'est les gens qui se rencontrent. Toi, t'avais besoin de ça. Hier soir, j'étais à Milan. D'accord? Je fais un cours, il y a une dame qui vient me voir, une dame des États-Unis. Elle me dit, écoutez, je ne comprends pas. Elle me dit, mais c'est la folie. Mais c'est la folie, mais c'est lumineux. Elle me dit, mais pourquoi c'est aujourd'hui que je vous rencontre? Elle me dit, je viens d'une famille. Ouais, on n'a que des femmes. Et que des femmes, et que des femmes. Parce que chaque génération, le mari, le père, le grand-père, ils sont tous morts. Donc c'est que des femmes, que des femmes, que des femmes. On n'a jamais eu de mari, on n'a jamais eu d'homme, on n'a jamais eu de Torah, on n'a jamais eu de kidouche, on n'a jamais eu de pensée, on n'a jamais eu de judaïsme, on n'a rien eu. Elle me dit, je vous rencontre. Comme ça, je suis avec une amie qui me dit, bon, viens, écoutez, il y a un cours à Milan, la classe, t'atterris de New York, tu rentres à Milan, il y a un type sympathique. Elle rentre, elle est comme ça, elle est comme ça, elle me dit, mais bon, c'est pas une idiote, 60 ans, elle a fait beaucoup de travail aux États-Unis. Elle me dit, écoutez, c'est la folie, mais elle me dit, pourquoi je vous vois aujourd'hui? Je dis, ben, c'est comme ça la vie. Moi aussi, je dois me demander, pourquoi je vous vois aujourd'hui? Ben, j'ai une question. Mais je sais pourquoi je l'ai vu aujourd'hui. C'est pourquoi? Parce que ça fait des mois et des mois qu'il y a des gens qui me demandent d'organiser quelque chose à New York et je n'ai pas de contact. D'accord? Et elle me dit, mais écoutez, moi j'étais l'organisatrice du Gent à New York, je connais tous les juifs de New York. Je sais pourquoi je l'ai rencontré moi. Elle ne sait pas, mais moi je sais. Pour moi, pour elle, je ne sais pas, on verra. Vous comprenez ce que ça veut dire ou non? Ça veut dire que toute la vie c'est comme ça. Il n'y a pas de hasard. Alors maintenant, comment tu vas faire pour absorber tous les éléments que tu dois utiliser pour toi et pour l'autre et pour l'autre et pour toi? Comment tu vas faire? On appelle ça savlanout. La patience. C'est quoi la patience? La patience, c'est d'accepter la différence de l'autre. Al tistakel bakankan. Oui, ne regarde pas l'extérieur, regarde l'intérieur. Tu sais pas. Même le ravioli, il avait compris. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Tu l'as pas connu? Bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas croiser des gens. Restez concentré. Tu vas croiser des gens. Allô? Tu vas croiser des gens et tu vas être obligé de faire un avec cette personne-là. Maintenant, tu sais pas. Peut-être c'est pour 10 minutes. Des fois, c'est pour des années. Des fois, c'est pour remettre en cause. Des fois, que toi, tu vas comprendre. On dit mitamidai yoter mirabotai. La Gemara dit, j'ai plus appris de mes élèves que de mes maîtres. Comprenez ou non? Ça veut dire que la personne, elle essaie de distribuer quelque chose. Mais l'autre, avec sa demande, il crée le besoin. Et le besoin, il crée les liens. Donc, qui c'est qui apprend plus? C'est vous ou c'est l'enseignant? Au Hachem, c'est un échange. Vous comprenez ou non? C'est un échange. Maintenant, cette logique d'échange, c'est quoi? C'est qu'il faut accepter la logique de l'échange. Et la logique de l'échange, c'est d'accepter l'existence de l'autre. Donc, c'est supporter la différence de l'autre parce que l'autre, il n'est pas exactement comme tu voudrais. Ben, je vais dire mieux encore, il n'y en a pratiquement aucun qui est comme tu voudrais puisque ce que tu voudrais, c'est toi. Et il y a 6 milliards de personnes qui ne te ressemblent pas dans le monde. Donc ça va être dur. Alors à Savlan, c'est quoi? C'est celui qui est patient. C'est quoi la patience? C'est d'accepter la différence de l'autre. Les Chamim, ils ont un langage pour ça. Ils disent Anose Be'ol Havero, celui qui porte la charge de son ami. On appelle ça la solidarité. Mais c'est quoi la solidarité? Quand toi tu portes un poids et moi je t'aide à le porter, il est moins lourd. Quand moi je porte un poids et toi tu m'aides à le porter, il est moins lourd. Ouais. Mais c'est quoi le poids, le vrai poids? Tu crois que c'est quoi? La vie, les impôts, les soucis, le travail, l'argent? Non. Le vrai poids, c'est l'autre. Anose Be'ol Havero. Celui qui porte le joug, deux points, de son ami. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est dur à supporter? C'est la différence de l'autre.
Maintenant, quand tu as réussi à dépasser, quand tu as réussi à dépasser la différence de l'autre, il n'y a plus de problème en vérité. Quand tu acceptes que l'autre, il n'est pas différent, il est enrichissant, il n'y a plus de problème. C'est extraordinaire. Tu peux t'asseoir à côté d'un clochard, il va t'apprendre des choses. Tu peux développer un truc incroyable avec un inconnu. Tu peux développer un truc 5 minutes avec un sadique, il va t'apporter une lumière qui va t'éclairer pour toute ta vie. Tu peux parler avec un chauffeur de taxi, il va te faire comprendre un truc. Tu peux voir 2 minutes une notion de physique qui va t'éclairer. C'est comme ça. Mais est-ce que tu es un absorbeur de particules? Ouais ou non? Tu traverses, tu dis, écoute, j'ai déjà ma vie, ça me suffit pour moi, je peux pas. Alors tu pourras pas avancer, tu pourras pas développer, tu pourras pas grandir. Zéo Asavlan, il dit pourquoi? Chez Eno Katser Arouar, qui n'a pas l'esprit obtus. Tu peux pas vivre avec un esprit obtus. Vous comprenez ou non? Maintenant, il y a la Halakha, il y a la Torah, il y a 613 mitzvot, mais tu peux pas avoir un esprit obtus. Pourquoi? Parce que, numéro un, la vérité est plurielle, ce qui est très compliqué, d'accord? Deuxièmement, tu sais pas comment le message va arriver. Troisièmement, tu ne connais pas le niveau de cryptage du message. C'est la grande mode, vous savez, des messages cryptés. Les gens, ils font crypter leur email. Chérie, rendez-vous à 2h au supermarché. Attends, je vais crypter. On ne sait jamais. Pourquoi tu es crypté comme ça? Je ne sais pas. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun d'entre nous, il a un langage. Celui-là, il t'a engueulé, c'est un message. Décrypte. D'accord? Celui-là, il t'a fait un sourire, c'est un message, il se moque de toi, décrypte. T'as compris ou non? Il faut décrypter. Comment on fait pour décrypter? Savlanout. La patience, j'accepte, j'avance avec toi, mais j'ai une ouverture d'esprit. Attention, tu ne vas pas me manger. J'ai un échange, on travaille, on évolue, on grandit ensemble. Je peux t'aider, je peux t'apporter, je peux te soutenir, super. Mais je ne vais pas perdre de temps avec toi, attention. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui-là, comme il est perpétuellement en phase de comprendre les messages que l'autre lui envoie, donc il est adapté à la réalité. Donc, mitrachek mimida takaras, il s'éloigne de la qualité de colère. C'est quoi la colère? C'est quoi le fond de la colère? L'inadaptation. Pourquoi tu t'affoles? Pourquoi tu t'excites? Parce que tu n'es pas adapté. Pourquoi tu cries? Parce que tu n'es pas adapté. Pourquoi tu t'énerves? Parce que tu n'es pas adapté. Maintenant, si toi, tu as décidé que l'autre, ça va être la suite de ton existence à toi et que l'autre n'est pas d'accord, ça t'énerve. Je vous ai déjà dit ça, rappelez ou non? Quand tu poses un choix à quelqu'un, tu dis, tu peux venir dimanche pour m'aider s'il te plaît pour déménager, quand tu lui poses la question, il a le choix ou non? Tu peux venir ou tu peux pas venir? Tu poses la question, il peut venir ou il peut pas venir? Il a le choix ou non? Oui, il a le choix. Alors pourquoi tu es déçu quand il dit non? Eh ben, j'attendais pas cette réponse, hein. Franchement, avec tout ce que je t'ai fait comme bien, t'es vraiment une sale... Mais tu m'as posé la question, si tu m'avais dit viens dimanche ou tu meurs, j'aurais senti qu'il y avait comme une espèce d'encouragement. Mais tu m'as dit, peux-tu venir dimanche à 9h s'il te plaît avec la pommade pour les courbatures? J'aurais compris que c'était pas pour mettre un glaçon dans ton verre quand je serais venu. Mais tu m'as posé la question, peux-tu venir? Rabotai, si quand je pose une question à quelqu'un, qui est donc une alternative, et qui me répond non et que je suis déçu, ça veut dire que j'avais déjà décidé qu'il devait dire oui. Donc si moi je suis un entrepreneur d'emploi du temps des autres, il y a des gens comme ça. Bon, j'ai besoin de toi mercredi, hein. Rappelle-moi je t'en prie, range-moi ton truc, amène-moi mes clés. Il y a des gens comme ça, ils prennent les emplois du temps de leurs copains et ils les remplissent. Par exemple, ils te laissent un message. Le deuxième message, carrément ils t'insultent. Écoute, il y a 4 minutes, je t'ai laissé un message. Alors, ou tu me rappelles, ou c'est plus la peine de me rappeler. Alors, tu le rappelles, tu dis, écoute, j'ai eu une crise cardiaque, j'ai été pris. Ouais, ben, t'as toujours des raisons. Il y a des gens comme ça. Ils supportent pas que tu ne puisses pas exister pour eux. Mais tu viens de découvrir que dans l'univers, toi et les autres, nous sommes deux. Vas-y, essaye, vas-y, essaye. Un, vas-y. Un, encore. Un, dis-le. Un, allez. Deux. C'est difficile. Trois, c'est le Guéhinnom. Trois, c'est qu'il faut que j'apprends à gérer à trois. Mais il faut que tu apprends à gérer à 5 milliards, mon frère. Comment tu vas gérer? Comment tu vas gérer? Les gens comme ça, ils s'assoient sur toi. Oh, excusez-moi, je n'avais pas vu qu'il y avait quelqu'un. Je dis, mais c'est votre place dans l'avion? Non, vous savez, moi, je m'assois n'importe où, puis après, je m'arrange. Il y a des gens comme ça. Ils sortent leur valise. Il faut qu'ils la mettent sur la tête d'un mec.
Bam! Oh! Qu'est-ce que tu fous là? Bah écoutez, j'étais à ma place, en dessous de truc, je pensais pas que vous alliez me frapper. Ouais, mais tu peux faire attention! Regarde où tu mets ta tête! Bon, vous allez me dire, j'exagère. Mais c'est pire! Il brûle le feu, il te rentre dedans, il arrache la moitié de ta voiture, il sort, il dit, mais tu sais pas conduire! Non, mais où t'as eu ton permis? Allez, dégage, allez, barre-toi, allez. Je dirai rien. Je t'enlèverai pas ton bonus. Il t'a arraché la voiture. Ouais. Il y a des gens comme ça. Ça veut dire qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à s'habituer, qui ne sont pas seuls. Donc automatiquement, ils sont coléreux. Parce que c'est quoi la colère? La colère, c'est l'incapacité de s'adapter à la différence de l'autre. Donc comme ils n'ont pas le temps de s'adapter, alors ils dégagent. Comme ils n'arrivent pas à le faire physiquement, parce que ce n'est pas des hommes de Cro-Magnon, alors ils crient. C'est quoi le cri? Le cri, c'est l'espace que tu prends en volume d'intensité existentielle. C'est pour ça que quand quelqu'un crie, vous restez bouche bée. Pourquoi on dit « Oh, bah écoutez, il m'a coupé le souffle !» Pourquoi? Il y a un type qui crie, on dit « Ah !» Je ne veux pas le faire, il y a le micro, je ne veux pas vous choquer. Mais... Alors vous faites comme ça. Oh, oh, regardez l'enfant, il est paralysé. Comme ça, il fait oh, « oh, oh. Pourquoi ?» La femme, regarde. Oh, le mari. Oh, la femme hystérique. Oh, pourquoi? Pourquoi en bataille? C'est très simple. Le cri, c'est la voix. La voix, c'est le son. Le son, c'est la vibration du souffle sur les cordes vocales. Le souffle, c'est neshima en hébreu. Neshima, c'est neshama. Neshama, c'est la volonté. Maintenant, la colère, c'est une explosion de volonté et c'est une explosion de souffle. Qu'est-ce qui se passe dans une explosion atomique? Ça absorbe l'oxygène. Quand vous criez, vous prenez l'oxygène de l'autre. Donc l'autre ne peut plus respirer. Il cherche l'air. Si vous continuez à crier, il peut s'étouffer, mourir étouffé. Il n'a plus d'air. Dans un volume fermé de 20 mètres cubes, si vous criez, vous prenez 19 mètres cubes. C'est comme ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'acceptes pas que l'autre a le droit de respirer. Que tu n'acceptes que pas que l'autre a le droit d'exister. Tu sais qu'il y a des gens qui te disent « Je ne peux plus te voir. » C'est incroyable. Tu vois des arbres. Tu vois un portrait d'Hitler. Tu vois une scène d'atrocité à la télé. Mais moi, tu ne peux pas me voir. Il y a des gens comme ça. Tu veux faire le shalom avec eux, tu vas les voir. Ils font comme ça. Tu dis, mais attends, mais regarde-moi. Non, je t'en prie. Ils n'arrivent même pas à te regarder. Regarde ce niveau de je ne sais pas comment on dit, de niaration, de niaison, ça existe, une niaison? D'annihilation. Ce niveau d'annihilation de l'existence de l'autre. Je ne veux même pas te voir. C'est le niveau d'agression de voir. Je ne veux pas te voir. Ça veut dire que le fait que tu existes, ça m'agresse. Mais c'est grave. Mais comment quelqu'un il peut arriver à un tel niveau de prendre la place dans le monde que l'existence de l'autre, au niveau de la vision, elle l'agresse? C'est pour ça que c'est marqué le contraire. Celui qui accepte l'existence de l'autre, parce qu'il est savlan, il est patient, alors, au mitrachek, mi minata karas, il s'éloigne de la colère. Puisque la colère, c'est le contraire, c'est l'inadaptation. Bon, j'arrête là parce que sinon, on va jamais finir le cours. Parce qu'on l'a à peine commencé. C'est un gros problème. Je sais pas, il y a un problème de gestion du temps aujourd'hui. Bon. Rabotai, si c'est comme ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Leftov, c'est que la personne, elle soit complète, elle soit entière. Maintenant, pour que cette personne, elle soit entière, on a compris qu'il ne suffit pas seulement qu'elle soit construite dans son intériorité, il faut aussi qu'elle soit construite avec l'intériorité de l'autre. Alors, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire rencontrer des gens qui ont besoin d'être intériorisés par l'autre et de l'intériorité de l'autre. Alors, il y a des échanges et toute ta vie, tu vas avoir des échanges. Ouais, tu dois dire merci à ton prof de CM2 là-bas, le professeur Legrand, qui t'a pris la tête avec les mathématiques, mais qui t'a structuré. D'accord? Après, tu dois te rappeler de ce copain-là qui t'a suivi pendant des mois et qui t'a aidé à te vider la tête pendant le stress que tu avais dans ton adolescence, parce que c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui tu es bien dans ta peau. Donc, il y a des milliers de partenaires que tu vas côtoyer dans ta vie qui vont être ceux qui vont t'aider à tracer ce chemin droit qui doit te faire traverser la réalité. Pour avoir quoi? Lev Tov. Mais tu as bien compris que Lev Tov, c'est pas lié que à toi, c'est aussi lié à l'autre. Alors regardez ce qui est marqué. C'est marqué dans le Saba Mikelem. A Torah tzricha bet kiboul. La Torah a besoin d'un réceptacle. Adam shetiv rogas. Un homme dont la nature est grossière. A Torah enena shochenet bo. La Torah ne peut pas résider en lui. Quelqu'un qui n'est pas construit. Ouais. La Torah ne peut pas être en lui. Parce que la Torah, elle est complète. Donc elle va s'inscrire chez des gens complets. Ou des gens qui désirent être complets. Mais quelqu'un qui est tordu ou à moitié, il ne peut pas recevoir la Torah. Pourquoi? Ou enomatim liot bet kibul et kabbalat Torah. Il n'est pas un ustensile qui est adapté pour recevoir la Torah.
Im en lo lev tov, s'il n'a pas un cœur complet. Et non osé be'ol chavero, il n'arrive pas à supporter le joug de son ami, c'est-à-dire il n'arrive pas à être solidaire de l'autre. Velo lomed le yaker et hacheni, il ne va pas étudier la Torah pour améliorer le deuxième. Chacun d'entre nous a une mitzvah d'étudier la Torah. Maintenant, est-ce que nous avons une mitzvah de faire que le prochain étudie la Torah? Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire, la question, elle est simple. Est-ce que la Torah de l'autre, c'est ta Torah ou c'est pas ta Torah? C'est ma Torah. La Torah de l'autre, c'est ma Torah. Ah, Botaï, c'est un grave problème. C'est-à-dire que si quelqu'un veut étudier toute la Torah, il faut qu'il étudie toute la Torah de tout le monde. Sinon, il n'aura jamais la Torah entière. Or, c'est marqué « Kol Israël yeshlahem helek batorah ». Tout Israël a une part dans la Torah. C'est quoi une part dans la Torah? C'est-à-dire que normalement, dans l'idéal, chaque juif devrait faire teshuvah, devenir religieux, étudier la Torah pendant une quinzaine d'années et écrire un commentaire sur la Torah. Tu dis, mais attends, j'ai même pas fini ma thérapie, tu veux que je fasse tout ça? Eh oui, il faut, alors toi c'est plus toi, il faut que tu fasses ta thérapie, que tu fasses tes shuvah, que tu deviens religieux, que tu étudies pendant 15 ans et après que tu écris des commentaires sur la Torah. Pourquoi le peuple juif s'appelle le peuple du livre? Vous n'avez jamais demandé? Parce que les 613 mitzvot, la dernière mitzvah c'est quoi? C'est d'écrire des commentaires sur la Torah. Parce que chacun d'entre nous, il a une tendance de la neshama. Oui, et cette tendance de Shama, elle a une vision différente. Donc puisqu'on a une vision différente, on a une mitzvah d'apporter notre part de la Torah dans le monde. Ça s'appelle l'accomplissement total. Maintenant tu amènes ta part dans le monde, tu as fait des enfants, tu t'es marié, tu as fait ta petite boutique, sahat, donc tu as fait ton travail. Mais est-ce qu'au niveau spirituel, tu as fait ce que tu avais à faire? Bon, j'ai fait mon petit Shabbat, ma salade cuite, mes boulettes. Bon, est-ce que tu as étudié la Torah? Oui, j'ai étudié la Torah le Shabbat matin, je ne m'endormais pas pendant que le rabbin faisait son petit discours. Non, est-ce que tu t'es assis? Est-ce que tu as appris la Gemara, Rashi, Tosfot, le Ran, le Ritva, le Roche, le Ramban, la Tosefta, le Sifri, le Sifra? Tu as fait tout ça? Talmud Yerushalmi, Talmud Babli, tu as fait l'Yerushalmi, tu as fait le Shulchan Aruch, le Nosek Kelim, tu as fait le Kesef Michel, le Chemichel, tu as fait le Rambab, tu as fait le Yadah Hazaka, tu as fait. Tu dis, c'est quoi? C'est une maladie? C'est quoi ce truc? Je savais même pas que ça existait. J'étais un bon juif, je mettais ma pièce tous les jours. Dans la tzedaka, je mettais mes téphilines, je visitais les malades. C'est bien, c'est joli, c'est, socialement c'est bien. Mais à part ça, puisque tu es un juif, il faut que tu étudies la Torah. D'accord? Parce que la première chose qu'on va te demander là-haut quand tu vas arriver à 120 ans, c'est pas est-ce que tu avais un appartement à Joint-les-Pins. Tu dis, mais je croyais que c'était une mitzvah. D'après les cartes, même dans le grand Israël, on n'inscrit pas Joint-les-Pins. Pourtant, au mois d'août, on se croirait vraiment à Tunis. Ben, c'est comme ça. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je veux étudier la Torah, j'ai besoin d'étudier la Torah des autres. Maintenant, des fois, la Torah des autres, ce n'est pas une Torah de Hidush. Ce n'est pas te donner un commentaire. Il ne va pas t'expliquer le tosfotri de là-bas dans Hulin d'Afkouf Alef. Peut-être il va t'expliquer une notion. Peut-être il va donner un exemple. Peut-être il va donner une attitude de vie qui va te faire comprendre ce que tu as étudié dans la Torah. Peut-être qu'il va te montrer des valeurs morales que toi, tu n'as pas eues après des années de Gemara. Il va t'apprendre quelque chose. Vous comprenez ou non? Ton rav, c'est pas forcément celui qui t'a tout appris. Des fois, tu as des macro-raves, des raves qui t'enseignent la majorité de ton enseignement, et des fois, tu as des micro-raves. Tu vois des gens qui ont un courage. Moi, je me rappelle, il y avait un type, il est venu me voir, il m'a dit, vous savez, Rabban Chetrit, c'est un peu difficile quand même, ça fait 3 ans que je mange dans le parking, parce que je travaille dans une très grosse boîte à la Défense, et je peux pas me mettre à la cafétéria de la boîte, alors je descends au parking et je mange dans le... Mais c'est un peu difficile. Je me suis levé, j'ai dit, écoute... Je suis époustouflé. Le type, ça fait 3 ans qu'il mange au parking pour manger cachère. Oh, quand même, on va pas se prendre la tête, une petite salade, un poisson. C'est pas cachère, t'as pas compris. Ce matin, j'étais à l'aéroport de Milan, je crevais de faim, j'ai pas mangé. J'ai tourné tout l'aéroport, j'ai cherché un petit ouyou, là, un petit cachère, j'ai rien trouvé. Rien. Même une salade de fruits. Ou alors. Rien que je me suis assis dans l'avion à l'Italia. Je sais pas, Hachem il a envoyé Lia Wanavi sous la forme de l'hôtesse de l'air, elle m'a amené un plateau cachère. Elle m'a dit Elle m'a dit, nous reste un plateau cachère. Je lui dis, merci mon Dieu, pardon. Oui, merci madame. Bon. Alors. Non, il n'aime pas quand on a faim. Ça l'énerve. Donc, rabotaille, ça veut dire quoi? Ça veut dire une chose. Je ne sais pas comment elle a su que j'étais juif d'ailleurs. J'ai pas. Bon. Non, une fois, une hôtesse de l'air, elle m'a regardé, elle m'a dit, excusez-moi, vous êtes rabbin? J'ai dit, non, je suis cow-boy. Ah, mais. Merila, merila. Donc, ça veut dire quoi? Attendez, où on était? Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un, il arrive à comprendre qu'en fin de compte, pour que la Torah soit complète, on a besoin de la Torah de tous les juifs. Et il y a un Ramban qui fait très très peur. Malheureusement, je ne peux pas vous faire tout le développement parce que je sais pas ce que c'est passé, j'ai trop développé. Mais il y a un Ramban incroyable. Le Ramban, il dit que quand c'est marqué dans la Torah, « Arur asher lo yakim et divrei Torah azot », maudit soit celui qui n'a pas accompli cette Torah. Et Yakim ici, c'est pas seulement d'accomplir, c'est celui qui n'a pas conforté, qui n'a pas renforcé, qui n'a pas développé cette Torah. Il dit le Ramban, c'est quoi? C'est celui qui ne va pas aller chercher la Torah des Rechaim qui sont Mevatlimota. C'est que toi tu étudies la Torah, Baruch Hashem, t'as bien étudié la Torah. Alors sache qu'il y a des Rechaim qui doivent faire teshuva et qui doivent étudier la Torah et qui doivent amener la Torah dans le monde. Tu dis, mais enfin, je comprends pas ce mec-là, il est complètement à côté de la plaque. Regarde-le, là-bas, il peut pas être, il peut pas amener les chidushim de la Torah. Une fois, je me rappelle, j'étais à Bnei Brak, et je voulais acheter un livre. Et le type, il m'a montré un livre. Je dis, c'est quoi ce livre? Il m'a dit, ce livre-là, c'est un type qui était ingénieur, je sais pas quoi. Je crois, à 28, à 30 ans, il a fait teshuva. Il est venu à Bnei Brak. On l'appelait le Talmid Chacham de Bnei Brak. Bon, pour ceux qui connaissent pas Bnei Brak, c'est une ville où 95% étudient la Torah. Donc, il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de café, il n'y a rien. Un jour, si vous voulez vous changer les idées, vous allez là-bas. Donc, Alors, il me sort ce livre, il me dit on l'appelait le Talmid Chacham. Un type, il connaissait rien, il ne savait pas lire. Hein. Il a fait teshuva genre à 30 ans, il est entré dans une yeshiva, 10 ans. Après, il est devenu Magichur, il donnait des cours. Il a écrit deux livres sur deux passages de la Torah qui sont très durs, qui sont la Gemara Sota et une autre Gemara Zvachim, je ne sais pas quoi, et il est mort. Il est niftar très jeune. Mais, regarde le parcours qu'il a fait le type. Je ne sais pas si vous comprenez. Le parcours qu'il a fait. D'accord. Un autre, j'avais rencontré un Mekoubal à Yerushalayim. Bon, lui, il était très très âgé. Il est nifta il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. C'est pareil, c'est un type qui avait fait les écoles de. Comment ça s'appelle? Les mines ou je sais pas quoi. Bon, lui, le plus vieux, en 30 et quelques, en 35, 40. Il est parti en voyage comme ça, initiatique en Israël. Il s'est installé là-bas, il a appris la Kabbalah. Il est devenu un des plus grands Mekoubalim d'Israël. Il avait écrit une série de livres comme ça. Moi, je lui ai dit, je voudrais bien faire des petites introductions. Il m'a offert deux livres. Parce qu'il est niftar, c'est un très grand sadique. Mais toute la journée, tu es en train de parler de la Kabbalah comme ça. Ta, 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 comme vous parlez, lui parlez. Ta, 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 ta. Le type, tu dis, il était ingénieur aux mines. Il est parti de là-bas, il connaissait rien. Il a travaillé, il a évolué, il est devenu. Donc tu peux pas condamner quelqu'un, tu peux pas dire quelqu'un, bah, allez, le pauvre, il a pas grandi dedans. L'autre encore, il est tombé quand il était petit dans la Torah. Non, lui, il a pas grandi dedans. Mais il s'est battu, il s'est accroché, il a écrit des commentaires sur la Torah. Comprenez ou non? Donc normalement, on doit recevoir la Torah de tous les juifs pour qu'elle soit complète. Les gens, ils croient à la Torah complète. Quelqu'un dit, vous savez, j'ai acheté toute la Torah. Mais Rabotai, ça n'existe pas toute la Torah. Parce que la Torah écrite, elle est ses 24 livres. La Torah orale, c'est le Talmud. Mais la Torah orale et la Torah écrite, elle reste vivante. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde, la Torah, elle continue. Vous savez qu'il y a 10 livres de Torah qui sont édités par semaine. 10 livres nouveaux par semaine qui sortent en Israël. Je ne sais pas si vous me suivez. D'accord? C'est énorme. Donc ça veut dire que la Torah, elle est vivante, la Torah, elle est vivante. Donc si quelqu'un, il veut toute la Torah, il faut qu'il ait la Torah de tous les juifs, puisque tous les juifs ont une âme qui leur permet d'avoir une perception différente de la Torah et devrait amener cette Torah dans le monde pour qu'on ait toute la Torah entière. Vous avez remarqué que ce n'est pas vraiment le cas. Ouais. Alors, Rabotai, on vit dans une période qui est très spéciale, qui est la période du Homer. Durant cette période du Homer, vous savez que c'est une période de joie, une période de deuil. C'est une période de joie. Pourquoi? Parce qu'on travaille tous les jours pour essayer de se rapprocher du matin de Torah, du don de la Torah, puisque la Torah, elle a été donnée à Shavuot après les 49 jours du Homer. Mais pendant cette période aussi, il y a une période de deuil, d'accord? Et c'est qui est lié à quoi? Qui est lié à la perte des élèves de Rabbi Akiba qui sont morts durant cette période. D'accord? La Gemara, elle dit, pourquoi est-ce que les élèves de Rabbi Akiba sont morts? Les élèves de Rabbi Akiba sont morts, pourquoi? Parce que c'est marqué dans la Gemara, lo na'agu kavod zelazé, ils ne sont pas faits du respect l'un envers l'autre. Alors, en deux mots, parce qu'il est très tard, le kavod, je vous ai déjà expliqué plusieurs fois que c'est le droit d'exister que je donne à l'autre. Quand Akadosh Baruch Hu, il aime un rave, il lui envoie des élèves. C'est quoi des élèves? Les élèves, c'est les photocopies. À l'époque, il n'y avait pas de graveur de CD, il n'y avait pas de magnétophone. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait les élèves. C'est quoi un élève? Un élève, c'est quelqu'un qui va absorber ce que le rave dit et ensuite qui va le redistribuer. D'accord? Mais le problème, c'est que quand vous avez 300 élèves dans un cours, il y a 300 cours qui sortent. Chacun, il a entendu ce qu'il pouvait, ce qu'il voulait, ce qu'il croyait entendre. Alors comment tu vas faire? Rabbi Akiba, il avait 24 000 élèves. D'accord? Ils sont tous morts. Et je vous dis, le plus bas des élèves de Rabbi Akiba, il n'y en a pas un aujourd'hui dans le monde qui arrive à sa cheville. Donc maintenant, on n'est pas là pour faire du Lashon Hara sur les élèves de Rabbi Akiba. On essaie là de comprendre qu'est-ce qu'on doit apprendre de cet événement majeur. Ouais. Rabotai, qu'est-ce que c'est un rave et qu'est-ce que c'est un élève? Un rave, c'est comme un diamant. Un élève, c'est quoi? C'est comme un miroir. Maintenant, si vous avez un diamant qui a 70 facettes, imaginez, vous mettez 70 miroirs autour du diamant et chaque miroir est mis en parallèle à une facette. Si vous envoyez une lumière sur le diamant, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être une luminosité incroyable parce qu'il va se créer un arc de lumière entre chaque facette et chaque miroir. Vous me suivez ou non? Exactement pareil. Il dit le Yarbetz, chaque homme, il a une tendance de la Neshama. Maintenant, Akash Bokhu, c'est lui qui envoie les élèves. C'est lui qui envoie le Rav, c'est lui qui envoie les élèves. Donc chaque élève, il a une tendance de Neshama. Donc puisqu'il a une tendance de Neshama, c'est comme un angle de vue. Donc chacun, il va absorber seulement un élément du Rav. Ça va? Maintenant, combien il avait d'élèves? Rabbi Akiba, 24 000. Donc combien il avait de facettes, Rabbi Akiba? 24 000. Chacun, il a une Neshama différente. Donc chacun, il va apprendre quelque chose de Rabbi Akiba qui est différent. Si tu cumules les 24 000 élèves de Rabbi Akiba, tu as un super gros Rabbi Akiba. Puissance 24 000. Oui? Mais, ça dépend. S'ils sont tous liés les uns aux autres, oui. Mais s'ils ne sont pas liés les uns aux autres. Or, c'est quoi le kavod? Le kavod, c'est donner à l'autre le droit d'exister. Maintenant, eux, chacun, ils pensaient qu'il avait appris assez la Torah de Rabbi Akiba. Ils n'ont pas voulu échanger leurs connaissances. Alors, écoutez-moi bien. Rabbi Akiba, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Entier. Mais en morceaux, c'est quelqu'un de dangereux. Je donne un exemple. Quelqu'un, il a une très très grande intelligence, très très force analytique et une très très grande volonté. D'accord? Et bien, en même temps, il est obligé d'avoir une très très grande patience. Parce que s'il n'a pas de patience, son cerveau, il devient comme un laser. Scan, il définit, il voit le point faible, il tue. Il scanne, il définit, il voit le point faible, il tue. Il scanne, et un mot, une définition, un meurtre. C'est facile de tuer quelqu'un. Donc, pour pas qu'un type trop intelligent, il devienne dangereux, Akadosh Baruch Hu l'a obligé à acquérir la patience. Et tu verras que pour acquérir l'intelligence, il l'a obligé à acquérir la patience. Parce que la patience, c'est le système de sécurité qui permet aux gens intelligents de ne pas devenir dangereux. Mais suivez ou non? Mais si tu sépares l'intelligence et la patience, c'est très mauvais. Parce que la patience tout court, ça s'appelle le laisser-aller, ça s'appelle le laxisme. Et l'intelligence tout court, ça s'appelle un laser qui tue. Donc il faut les deux en même temps. Oui ou non? Alors, grossièrement, c'est ça. Les 24 000 élèves de Rabbi Akiba, ils ont absorbé 24 000 facettes. Tous séparément, ils sont extrêmement dangereux. Toute leur vie, elle venait du fait de leur projet. C'est quoi leur projet? C'est qu'ils soient des reproductions de Rabbi Akiba. Mais pour qu'ils soient des reproductions de Rabbi Akiba, il fallait que chacun apprenne ce que l'autre a appris. Donc chaque élève contenait un 24 millième de Rabbi Akiba, donc ils devaient apprendre 23 999 facettes qu'ils ont refusé d'apprendre. Ce qui les reliait, c'était quoi? C'était le fait qu'ils étaient les élèves de Rabbi Akiba. Mais pour que chacun devienne un Rabbi Akiba, il fallait qu'ils apprennent tous de tous. Comme ils ont refusé d'apprendre tous de tous, ils sont tous morts. Ce n'est pas une punition. Ce n'est pas une condamnation. C'est une conséquence. Quand tu te détaches de ta source de vie, tu meurs. Comme un avion. Vous savez, les avions, les fantômes, là, les jets. Ouais. Vous savez que ça va très très vite, hein? Mach 2, Mach 3. Mais ça consomme incroyable. Maintenant, le type, il est tout le temps en train de calculer, est-ce qu'il aura assez d'essence pour repartir? Parce que s'il n'a pas assez d'essence pour repartir, quand il arrive à une sous-vitesse au niveau de sa consommation, il tombe et il ne peut pas planer. Vous savez qu'un mirage ne peut pas planer. Hein? Il s'écroule. Exactement pareil. Si quelqu'un, il veut aller très très loin, il est très très fort, il est très très bien, mais il se détache de sa source... Les 24 000 élèves de Rabbi Akiba sont morts, pas n'importe quand, ils sont morts entre Pessah et Shavuot. Pourquoi? Parce que Shavuot, c'est le don de la Torah. Mais comment est-ce qu'on a reçu la Torah, Rabotai? Hashem il a voulu que tous les bénis Israël soient en bas du Arsinaï. Et pas n'importe comment. Il les a pas voulu individuellement, il les a voulu tous ensemble. Lev Ishechad, Belev Echad. Il a dit tous comme un seul homme, dans un seul cœur. Pourquoi ? Parce que la Torah, elle n'est entière que quand elle est donnée à tout le peuple. Et que même si ensuite elle est séparée par les différents corps, elle est à nouveau partagée par tout le peuple. Donc la Torah, elle n'est pas singulière, elle est plurielle. Donc c'est normal qu'il y ait de la Chassidout, c'est normal qu'il y ait des Sfaradim, qu'il y ait des Ashkenazim, qu'il y ait des Litaïm, qu'il y ait des Yeshivishers. C'est normal qu'il y ait des sionistes et des antisionistes. Et c'est normal qu'il y ait des visions comme ça et des visions comme ça. C'est normal. Dans toutes les facettes de la Torah, à partir du moment, encore une fois, où on garde le Shulchan Aruch et on accomplit les 613 mitzvot, il y a des milliers et des milliers de facettes de la Torah. Maintenant, toute la Torah entière, c'est quoi ? C'est la Torah que Hachem a donnée. Ils n'ont pas compris ça. Ils n'ont pas compris ça. Alors, quand est-ce qu'ils sont morts ? Entre Pessah et Shavuot, parce que Shavuot, c'est le don de la Torah. Et pour recevoir la Torah, il faut être entier. Donc, comme ils s'étaient séparés, ils sont morts. De quoi ils sont morts ? Askara, c'est quoi Askara, la diphtérie ? C'est quoi la diphtérie ? C'est que les parois de la gorge, elles se gonflent jusqu'à ce que la personne, elle meure étouffée. Elle dit la Gemara, pourquoi ? Comme ils ont retenu leur Torah dans leur gorge, ils n'ont pas voulu la partager avec leurs amis, donc ils sont morts étouffés. La Torah, elle est restée en eux, elle n'a pas été partagée. Combien de temps elle a duré l'épidémie ? Combien de jours ? 30 ? Non, le 33e jour, c'est la fin. Elle a duré 32 jours. 32, c'est quoi ? Lève. La Medbet. Ils avaient le cœur. Combien il manque pour arriver jusqu'à Matan Torah ? 49 moins 17, moins 32, 17. C'est quoi 17 ? Tov. Il a marqué le Tov. Ils avaient le lève, ils n'avaient pas le lève Tov. Ils n'étaient pas construits. Parce que pour être construit, il faut être construit avec l'autre. T'as compris ou non ? C'est pas par hasard, Abotaïn. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il a voulu nous montrer que non seulement ces gens-là, ce n'est pas des gens à côté de la plaque, c'est des très très grands, qu'à leur niveau, à eux, c'est considéré comme une faute, mais nous, on n'a pas le droit de parler contre eux, d'accord ? On doit tirer un enseignement d'eux. Et c'est des gens qui étaient tellement des enseignants durant leur vivant que même leur mort, c'est un enseignement. Même la maladie dont ils sont morts, c'est un enseignement. Même la période dans laquelle ils sont morts, c'est un enseignement. Même la durée de l'épidémie, c'est un enseignement. Et même la non-durée, c'est-à-dire le temps que ça n'a pas duré, les 17 jours en moins, c'est encore un enseignement. Pourquoi ? Pour nous enseigner que la Torah, elle passe obligatoirement par l'autre. Donc non seulement qu'il faut refuser la notion de la différence, mais qu'il faut accepter la notion de Am Echad, un seul peuple. Ah, on n'est pas pareil, on n'a pas la même vision, celui-là est trop religieux, c'est pas les religieux, celui-là est pour, celui-là est con, celui-là il fait Yom HaSmaout, il fait pas Yom HaSmaout. Fais ce que tu veux, ça c'est de la culture, ça. Même pas une mitzvah, c'est de la culture. Maintenant, tu veux le faire, fais-le, ça te fait plaisir. Fais-toi plaisir, tu veux te faire un t-shirt, t-shirt. Fais ce que tu veux. Mais n'oublie pas ce qui est commun à tous les juifs. Qu'est-ce qui est commun à tous les juifs depuis 3500 ans ? Le falafel, la salade cuite, c'est quoi ? La seule chose qui est commun aux juifs depuis 3500 ans, c'est la Torah. Maintenant, Kadosh Baruch Hu, il a promis, ça s'appelle Brit à Torah. L'alliance de la Torah, Hachem, il a promis que jusqu'au Mashiach, il y aurait de la Torah. Maintenant, qu'est-ce que tu fais, toi ? T'essayes de faire un avec la Torah et un avec le peuple d'Hachem. Maintenant, Hachem, il a voulu que toutes les bénis Israël reçoivent la Torah. Alors, débrouille-toi. Tu mets que j'en ai à foutre, moi, j'en ai à foutre, moi, ouais. Tu es responsable. Alors, comment tu vas faire ? Je ne peux pas m'occuper des gens qui sont loin. Tu fais ton travail à toi. Les gens que tu as autour de toi, tu leur parles, tu leur passes un petit mot, tu leur prêtes un CD. J'ai déjà dit qu'on peut doubler les CD. J'ai pas de royalties sur la Torah, moi. Si vous voulez graver les CD, gravez-les. Ici, il n'y a rien de grave, d'accord ? Vous pouvez inviter quelqu'un à écouter, vous pouvez lui envoyer un DVD, vous pouvez lui l'envoyer sur le site, il peut télécharger. Vous le faites, vous faites votre petit travail. Vous dites, tiens, je suis en stage à Quimper. Il y a Ward Benichou qui vient à côté de moi. Il me dit qu'il a grandi à Lille. J'ai dit, bon, tu sais, tu veux pas écouter quelque chose de marrant ? C'est plus sympa que Coluche. Écoute ça. Qu'est-ce que ça peut te faire ? Tu fais ton petit travail parce que tu dois te demander, qu'est-ce qu'un mec à Quimper, il vient juste en face de moi, ouais, et il me dit, excusez-moi, à quelle heure rentre Shabbat ? Tu peux faire quelque chose pour lui, fais-le. Qu'est-ce que ça te coûte ? Tu te sens responsable. Ah, tu vas pas lui sauver la vie. Ah, tu vas pas lui faire tes chouvas. C'est pas ton problème. Abotaï, rappelez-vous que le jour où tu accepteras qu'on est responsable de rien et qu'on est responsable de tout, tu as gagné ta vie. Tu es responsable de tout parce que tu te sens la conscience pour le peuple d'Israël. Mais tu es responsable de rien parce que tu ne peux pas tout assumer. Alors qu'est-ce que tu fais entre les deux ? Bah, tu fais ce que tu peux. Tu es capable de parler, parle. Tu es pas capable de parler, tu peux conseiller. Tu ne peux pas conseiller, tu peux encourager. Tu ne peux pas encourager, tu peux remonter le moral. Fais-le. Comprenez ou non? C'est pareil, je vous ai dit plusieurs fois, même quand vous faites une mitzvah, le matin, vous mettez les téfilim. Ça vous arrive, vous mettez les téfilim. Quand vous mettez les téfilim, vous savez ce que vous faites? Au moment où vous mettez les téfilim, vous dites, je les mets pour moi, pour ma famille, pour mon lamaba, et je les mets aussi pour un autre juif, c'est pas grave. Ça ne va rien vous enlever à vous, et ça va le rajouter à quelqu'un. Vous ne savez pas qui, c'est pas grave. Il ne vous dira pas merci. C'est pas grave. Il faut s'habituer un peu à sortir du calcul. C'est pas grave. Tu fais Shabbat, dis ce Shabbat, je le fais aussi pour quelqu'un d'autre. Il y a un autre juif dans le monde, ça lui fera du mérite. Vous comprenez ou non? Ça s'appelle la solidarité dans le peuple d'Israël. C'est ça la vraie solidarité. La vraie, c'est ça. Alors, vous pouvez continuer à aller à des manifs, à lutter contre la xénophobie, à signer des pétitions d'Ahbaba, genre comme si le type du Hamas, il va dire « Oh, j'ai été intimidé, il y a eu 1200 signatures. » Ça va l'empêcher de s'éclater. Genre. D'accord, bon, c'est pas grave. Mais vous pouvez continuer à le faire. Mais n'oubliez jamais que la vraie solidarité, c'est la solidarité que vous entretenez avec la Neshama d'Israël. Et la Neshama d'Israël, c'est quoi? C'est le lien qui existe entre nous tous. Et la Neshama d'Israël, c'est la Torah. Donc si quelqu'un comprend ça, non seulement qu'il ne va pas faire du lachonara sur les élèves de Rabbi Akiva pour dire, parce que les gens disent, mais enfin, si c'était des gens tellement grands, comment ça se fait qu'ils n'ont pas compris ça? Je vous ai déjà dit, on n'a pas ce genre d'interrogation. Parce que leur averot à eux, c'est des mitzvot pour nous. Je ne sais pas si vous voyez un peu la distance qu'on a avec eux, d'accord? Donc, on ne s'interroge pas sur le pourquoi de chez eux. Ce qu'on t'intéresse, c'est que si Dieu a fait parvenir l'information jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que moi, je peux tirer comme enseignement à mon niveau, à moi? Qu'est-ce que je peux apprendre de ça? Je peux apprendre la solidarité, je peux apprendre l'écoute de l'autre, je peux apprendre que moi, je dois devenir complet. Je peux apprendre que moi, pour devenir complet, j'ai besoin de l'autre. Et pour apprendre de l'autre, j'ai besoin d'être patient, j'ai besoin d'être à l'écoute et j'ai besoin d'accepter la différence. Je ne vais pas vous refaire tout le cours. Donc, à partir du moment où j'accepte tout ça, non seulement que je n'insulte pas les élèves de Rabbi Akiva, mais au contraire, j'apporte encore un mérite à leur mémoire et je fais exister leur mérite jusqu'à aujourd'hui, puisqu'en montrant que je tiens compte de ce qu'ils nous ont enseigné, même par leur mort, alors je les continue à les rendre vivants jusqu'à aujourd'hui. Voilà.